Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Au bout du foot, une émission présentée par Eladji Makalou. Avec nous ce soir, on va déballer le programme et le sommaire. Beaucoup de blessés, on va parler football, mais avec nous beaucoup de blessés. Notamment, on pense à certains joueurs, Carvajal, Vinicius, Kylian Mbappé même. On va en débattre juste après avec nous du bon monde autour de la table. Léo, comment ça va?
Ça va, Eladji, et toi?
Ça va. Petite rentrée pour toi?
Ouais, après une première saison super sympa, on va repartir sur les mêmes bases, hein, écoute.
Avec des petites vacances aussi, là, ça va, t'as pu te reposer, tu
ça
me reviens
fait plaisir,
en forme.
Là, on est chaud pour 2024.
Ok. Et toi, Alexandre, comment ça va?
Ça va super, première émission de la saison, on espère repartir sur les mêmes bases que la saison dernière, et voilà.
Et toi, Maxence, comment ça va?
Ça va super, même si petite flemme de la trêve internationale qui arrive là. Ouais. Mais bon, on va faire avec. Hein.
Bah ouais, les matchs qui arrivent ne t'enchantent pas trop?
Non, pas tellement. Non, là j'étais bien lancé sur ma saison de club, reprise avec des champions, la Ligue Europa, les dynamiques en championnat ont commencé à se lancer et puis on est coupé en plein élan mais pour des matchs un peu en bois, mais c'est pas grave.
Mais ça va faire du bien pourtant à ton équipe, toi, ça allait pas très bien dernièrement, non?
C'est vrai que c'était le moment de retravailler un petit peu là, pendant les 15 jours, j'espère qu'ils vont être mis à profit pour entamer un cycle positif.
Voilà, donc ça, c'est un point positif quand même.
Si on le prend de ce côté-là, ouais, allez.
Ok, on va déballer avec nous, on va commencer par la Ligue 1 avec l'OM. L'OM qui n'y arrive plus, de Serbie peut-être à bout de souffle. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Léo?
Non, moi je pense pas qu'il soit à bout de souffle. Je pense qu'il a besoin de temps pour s'adapter à un nouveau championnat, surtout. Ce qu'il pouvait faire à Brighton, il ne peut plus le faire aujourd'hui, forcément en Ligue 1, parce que ce ne sont pas forcément les mêmes demandes tactiques et physiques qu'il y a en Angleterre et en France. On voit aussi que certains joueurs sont en baisse de forme sur ces derniers matchs. Donc maintenant, c'est à lui de trouver la solution, ainsi qu'à son staff, afin de pouvoir permettre à l'OM de repartir du bon pied après la trêve. Surtout avec un match par semaine, ce serait dommage de laisser passer cette chance.
L'OM qui sont déjà à 4 points de la place de leader, hein, qui n'est plus pour le Paris Saint-Germain, du moins. En tout cas, cette trêve-là, c'est l'AS Monaco qui va passer cette petite trêve devant. Avec nous, Samba qui vient de nous rejoindre dans les studios. Samba, comment ça va?
Ouais, ça va, et toi?
Ça va, super.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Salut, Samba. Salut.
Bon, on te souhaite la bienvenue. Samba qui était à l'Emirates Stadium, hein, qui a pu assister au déluge londonien, mais on va en reparler, on aura le temps d'en reparler juste après. Alexandre, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Serbie avec l'OM en ce moment, de ce qu'ils proposent, que ça soit dans le jeu ou en termes de points?
Franchement, dans le jeu, on va pas se mentir, c'est quand même assez mauvais. C'est plutôt le néant. On voit très bien que De Serbi n'arrive pas à mettre en place les mêmes idées qu'il avait à Brighton. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu ma philosophie et je pense la philosophie que tout le monde devrait avoir. Il faut laisser du temps à un entraîneur qui vient d'arriver, encore plus dans un contexte qui est celui de l'Olympique de Marseille. On sait qu'ils ne peuvent pas recruter tous les joueurs qu'ils veulent, qu'il y a eu des embrouilles en interne avant. Qu'il y a un nouveau directeur sportif qui est arrivé en cours d'année dernière, etc. Donc c'est un contexte qui est compliqué. Je vais accentuer sur le manque de qualité en fait aussi que l'Olympique de Marseille ils ont. Il y a pas de latéraux, la défense centrale elle est somme toute mauvaise. Le milieu de terrain il est en dents de scie, même s'ils ont recruté Adrien Rabiot, on voit qu'il manque quand même de la qualité. Et puis devant, Elie Wadi qui n'y arrive pas. Donc franchement, De Serbie a quand même des circonstances atténuantes. Donc je dirais pas qu'il est à bout de souffle, mais bon, faut quand même faire attention pour l'Olympique de Marseille. Mais il faut de la patience.
Nil Mopé aussi, hein, qui on a pu voir, hein, s'est pris deux cartons jaunes assez rapidement. Et Nil Mopé, il a souvent des petits problèmes de comportement. Ça va aussi porter préjudice à l'Olympique de Marseille, avec un Wai qui n'a pas entamé encore un bon début de saison. Toi qui es supporter de l'OM, Maxence, on peut le dire, tout à fait. Tu l'assumes haut et fort. Qu'est-ce que t'en penses, toi, dernièrement, de ce qui se passe du côté des Olympiens?
Moi, je pense que le problème de l'OM et de l'entourage de l'OM ces dernières années, c'est de monter trop vite et de descendre trop bas aussi dès que ça va pas, dès qu'il y a un petit coup de moins bien. Donc, il y a 15 jours, De Zerbi, c'était un dieu vivant après la victoire contre Lyon à 10 contre 11, etc. Là, donc, on n'était pas les meilleurs du monde il y a 15 jours. On n'est pas la pire équipe de France aujourd'hui. On est troisième à 2 points du PSG. Je pense que tout le monde aurait signé pour un début de saison comptable comme cela. Après, c'est clair que la méthode De Zerbi, elle ne va pas se mettre en place en 2, 3, 4 semaines. Il faut du temps. Peut-être que ça prendra une demi-saison. Peut-être que ça prendra même une saison de transition pour qu'il puisse lui voir quels joueurs font l'affaire, quels joueurs rentrent dans son projet, comment améliorer l'équipe, etc. Mais moi, je ne tirerai pas de conclusion pour l'instant. Le match contre Angers, on le refait 10 fois, on le gagne 9 fois. Il y a le rouge de Mopé qui doit jamais prendre.
Je ne suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. Non, honnêtement,
ils ont une frappe dans le match. C'est le coup franc venu d'ailleurs d'El Melali qui a pas marqué depuis 2021 en Ligue 1.
C'est un Marseille c'est un Marseille qui est plat, qui a pas trop de solutions.
Je te trouve dur quand même avec l'Olympique de Marseille, parce que moi j'ai vu le début de saison de l'Olympique de Marseille et au début ça allait. De Serbi, même s'il n'était pas super content, il disait moi je voyais une équipe
de Marseille qui est conquérant.
Oui, qui me faisait plaisir à voir jouer au football. Ouais, je suis d'accord. Ça n'avait rien à voir avec l'année dernière.
Ah non, mais vraiment. Là, je suis 100% d'accord avec toi, mais je suis d'accord aussi sur le fait que, bien sûr, il faut laisser du temps à De Zerbi. Mais le match contre Angers, honnêtement, tu le rejoues 10 fois, je ne pense pas que tu le gagnes 9 fois. Je serais faux de dire ça. Et point d'alarme quand même, parce que Marseille, quand bien même il faut laisser du temps, comme je l'ai dit, et qu'on ne va pas voir un jeu flamboyant tout de suite, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est qu'il ne faut vraiment pas qu'ils passent à côté de la Ligue des Champions cette année. Ils sont obligés de se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc quand bien même il faut laisser du temps à De Zerbi, etc., moi je suis quand même assez patient là-dessus. Mais au bout d'un moment, si on voit que les résultats ne suivent pas, que par exemple à la mi-saison, on voit qu'ils sont, 5, 6e et que la Ligue des Champions, elle est menacée, là, va falloir sérieusement se poser des questions. Commencer à se poser des questions.
On verra, en tout cas, on n'y est pas encore. Samba, toi, qu'est-ce que t'en penses de l'Olympique de Marseille dans son début de saison et là maintenant, qui cale un peu avec le dernier match nul et là, la défaite face à Angers?
Ouais, bah, comme il l'a évoqué...
Maxence.
En gros, ils ont fait un bon démarrage. On va dire plus les supporters, ils se sont enflammés sur le début de saison. Et là, en fait, ils n'ont pas eu vraiment de défaite. Ils ont fait quelques matchs nuls. Et on voit que c'est comme si c'était un début de crise.
C'est un début de crise, oui et non. Parce qu'en fait, c'était contre des équipes abordables. C'est pour ça, en fait, que les supporters ne sont pas contents. Là, ils ont une défaite quand même. Là, ils ont un match nul contre Angers. Ils ont eu une défaite? Non, c'était un match nul contre Angers.
Strasbourg.
Contre Strasbourg. Contre une très belle équipe aussi de Strasbourg. Et là, c'était un match nul contre Angers dernièrement.
Ouais. Mais en fait, l'histoire, c'est qu'après la victoire contre Lyon, tout le monde a commencé à s'emballer, ouais. Ça joue le titre. Égalité de points avec le PSG, avec Monaco, ça va le faire, etc. Il y a Strasbourg-Angers qui arrive avant la trêve. On va accueillir le PSG au Classico en étant devant. Mais ça, c'est un monde parallèle. Et donc, du coup, là, c'est la petite redescente sur terre. Mais PSG et Monaco sont devant, ce qui est logique et ce qui va rester comme ça, je pense, jusqu'à la fin de saison. Après, le championnat de l'OM, il est face à Lyon, il est face à Lille, il est face à Rennes, face à Lens, face à ce genre d'équipe pour viser le top 4, comme on le disait.
On va y venir justement avec l'Olympique de Lyonnais qui monte en puissance avec un Cherki vraiment redoutable et transformé, hein, vraiment transformé. Bah, là, je suis obligé de m'adresser à toi, Léo, supporter de l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que t'en penses de ce début de saison un peu mitigé, mais là, en tout cas, ces derniers matchs, qu'est-ce que t'en penses de l'Olympique de Lyonnais?
Ouais, moi, je pense aussi que le match contre l'Olympique de Marseille est un tournant dans le début de saison lyonnais, parce que, pour en revenir à ce qu'on disait avant, ce qui est plus préjudiciable pour l'OM, c'est que les résultats sont plutôt bon en soi, à part le dernier match face à Angers et celui à Strasbourg. Mais le classement est un peu en trompe-l'œil, puisque contre Lyon, ce match-là, tu le rejoues 9 fois, tu le perds 10 fois, pardon, tu le perds 9 fois. Le match contre Nice, c'était aussi très, sans sortir avec 3 points, c'est très délicat. Lyon, le truc, c'est qu'on a connu un très mauvais début de saison. Et que l'OM, je pense que ça a créé une sorte de frustration à la fois pour les joueurs et pour le coach. Parce que tu domines, parce que Rouli fait un énorme match, parce que le scénario est... L'OL perd ce match au final. Et je pense qu'ils avaient à cœur, pour eux, plus encore que pour les supporters, de se rattraper rapidement. Et là, tu restes sur une série de 4 matchs sans défaite, même avec que des victoires, dont 2 en Europe, pour ton retour après 2 ans d'absence. T'as des joueurs qui brillent, t'as des joueurs qui retrouvent leur forme. Quand je vois Tolisso, qui est, pas, selon l'équipe, le meilleur joueur de Ligue 1 sur le début de saison, au classement qu'eux établissent, c'est le meilleur joueur. Après, est-ce que c'est le meilleur joueur pour de vrai ? Ça, c'est chacun en débat et chacun en pense ce qu'il veut. Même moi, je ne suis pas forcément d'accord là-dessus. Mais non, c'est bien que Lyon retrouve enfin, entre guillemets, de sa superbe à travers certains profils dont beaucoup ont douté, à commencer par moi, par exemple, pour Cherki, parce que c'est un joueur à la fois exceptionnel, mais aussi exaspérant. Mais il y a de la qualité. Maintenant, il va falloir continuer et concrétiser les espoirs de ces 3-4 derniers matchs.
Cherki qui prend une place de titulaire indiscutable, un peu, moi en tout cas, selon le plan de jeu, de ce que je vois, là, avec l'Olympique lyonnais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Samba ?
Là, au vu des dernières performances de Cherki, oui, là, on va dire qu'il mérite sa place de titulaire. Après, au niveau de la saison, franchement, j'attends un peu plus. En gros, qu'il soit constant. Et je pense que même les supporters lyonnais, c'est ce qu'ils attendent. Qu'il soit constant et qu'il confirme, en fait, son statut... Certains disent de crack, mais pour ma part, moi, je trouve que...
T'as des réserves là-dessus.
Ouais, voilà. C'est un bon joueur. Ouais. Il est jeune. Mais pour moi, je pense pas que ça soit un crack.
Un crack. Qu'est-ce que t'appelles un crack ?
Je sais pas.
Joueur pour toi, là, non, un crack.
Par exemple, Zaire Emery, pour toi, c'est un crack ou pas ?
Qui ?
Zaire Emery, c'est un crack pour toi ?
Zaire Emery ?
Ouais.
Franchement, au début, non, pour moi, c'est pas un crack. C'est un très bon jeune, mais c'est pas un crack. Parce que il est encore sur sa période de flou encore. En gros.
Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais pour moi, Ryan Cherki, en fait, ça, il fait partie de ce type de joueur qui peut porter une équipe. S'il est à fond à 100%, il peut porter une équipe parce qu'il va sortir des gestes de son chapeau. Comme
ouais,
on
mais
dit.
Il est à Lyon, encore.
Ouais, il est à Lyon, mais justement.
Après, c'est vrai, c'est pas le club
qui
fait pas qu'il va
faire de Lyon une équipe championne de France. Mais ouais. Au moins, dans les 3-4 premiers, s'il fait une excellente saison. Moi, j'ai envie d'y croire. La vérité.
Là, ça fait à peu près combien de temps qu'il est pro ?
Ça fait
2-3 ans. Ouais. 2-3 ans.
Ça fait 3-4
ans. En 2-3 ans, on a vu d'autres exemples.
Non, même plus.
Ça fait 5 ans.
C'est vrai.
Il a commencé un peu trop tôt aussi. Des joueurs un peu bafouillés comme ça. Moi, ouais. Je pense à des joueurs comme Ansu Fati. Ansu Fati, c'est.
Non,
c'est les blessures.
Ansu Fati, c'est blessé. Sincèrement, c'est les blessures.
C'est les blessures, mais c'est le rythme qu'on lui a imposé aussi il est arrivé, ouais. On lui a donné, on l'a mis à un niveau sur un piédestal. Il rentrait en jeu, même pas 10 minutes, il changeait un match. Il donnait la victoire au Barça plusieurs fois en rentrant en jeu. Il était décisif. Du coup, on a pu voir, on lui a mis beaucoup de pression. Ça compte aussi, même pour l'être humain, le fait de se sentir. Et après, oui, ça, il y a des blessures, etc. C'est un peu le tout, mais ça jouer aussi tôt au niveau, moi, je pense que ça porte préjudice à nos jeunes pépites.
Par rapport à
excuse-moi de te couper, mais avant, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, les Zinedine Zidane, c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, on voit des cracks à 18 ans, ce qu'ils font, on dit oui, ok, mais Zizou, etc., ils ne faisaient pas la même, mais parce qu'ils étaient encore sur le banc. Mmh. Même si c'était des cracks, ils jouaient encore sur le banc ou à leur niveau. Ouais. Et le problème, il est bien là, ils n'avaient pas juste moins de talent, c'est juste aujourd'hui, on les jette dans le bain un peu trop tôt.
Par rapport à Ansu Fati, en gros, il a commencé très tôt. Il me semble qu'il a commencé
15 et quelques. Ouais. Ça a compté.
Franchement, il était sur des bonnes performances. C'est sa blessure, c'est ses ligaments croisés qui l'ont ralenti dans sa progression. Après.
Pour revenir à Cherki.
Ouais, voilà, pour revenir à Cherki, on a des exemples. Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé. Eux, ils ont commencé tôt. Ils ont su, en gros, maintenir leur niveau. Et c'est de là que les entraîneurs, ils ont fait plus confiance. Parce que les jeunes, comment ça s'appelle ? commencent plus rapidement leur carrière.
Mais je pense que le problème de Cherki, c'est justement d'avoir été comparé à ces mecs-là très tôt quand il est arrivé. Là, il arrive à une sorte, enfin, on a l'impression de tournant dans sa carrière parce que cet été, il n'a pas eu les offres qu'il pensait avoir. Il s'est retrouvé un peu le dindon de la farce en étant à Lyon.
Est-ce qu'il voulait réellement partir, à ton avis ? Tu penses réellement qu'il voulait partir ?
Je pense que Lyon voulait s'en séparer déjà.
Oui, après, l'influence des agents.
Ça, c'est sûr.
L'influence des agents. Parce que là maintenant, il est avec Moussa Dembélé.
Il n'en avait pas.
L'agent de Ousmane Dembélé.
Oui, il a changé. Donc,
cette année, après, je lui souhaite, hein, s'il fait une très bonne saison, je pense que c'est sûr qu'il part.
On parlait
moi,
de lui à Paris.
Moi, je pense quoi qu'il arrive, il part.
On parlait de lui à Paris cet été aussi.
C'était plus l'hiver dernier.
L'hiver dernier,
parce
pardon.
Parce que cet été, c'était pas très chaud le Paris.
Ça aurait pu se faire, mais bon, ça s'est pas fait. Mais je trouve que c'est une bonne chose qu'il soit resté à Lyon, Cherki.
Mais Cherki, c'est le genre de joueur qu'on aime tous. Il peut nous faire une saison, déjà, où il est titulaire indiscutable et où il multiplie les bonnes performances, que ce soit en Ligue 1, en Europe. Ça sera déjà une grande avancée pour sa carrière. C'est quelque chose qu'il nous a pas montré jusque-là. Et je pense que c'est le moment pour lui.
Moi, en tout cas, franchement, il me ravit. Hein. Je le vois jouer, c'est un régal. Là, même face à Nantes, on reviendra aussi en Ligue Europa. C'est très, très fort. Hein. Conduite de pied droite, gauche. Ce qu'il fait, c'est vraiment impressionnant. Moi, voilà, même s'il a eu des dessous, je le vois revenir à un tel niveau. Je vais y croire, moi, pour d'autres joueurs comme Kylian, comme Ousmane. Je vais y croire qu'ils vont revenir à de tels niveaux et pendant longtemps, oui, Léo.
Mais tu vois, tu parles de crack. Est-ce que Cherki est un crack ou non? Mais je pense qu'à Lyon, c'est même pas le vrai crack. Le vrai crack, pour moi, à Lyon, c'est Malik Fofana.
Il est extraordinaire.
Un joueur comme ça, qui est déjà que Lyon ait réussi à l'attirer, c'est une belle chose parce qu'il était pisté par plein de grands clubs. Mais Malik
Fofana...
Et
parce que tu connais aussi les liens qu'ils ont avec la Belgique, Lyon...
Ouais, de plus en plus récents, surtout. Mais Malik Fofana, si cet hiver, il y a une offre qui arrive, Lyon, dans l'obligation de vendre, le vendra. Et je pense que ce joueur, d'ici 2-3 ans, jouera dans un très, très, très grand club européen. Il a tout pour. J'ai juste en exemple là, la passe décisive qu'il met à Alexandre Lacazette contre les Rangers. Ce qu'il fait en éliminant la défense, en attendant l'arrivée de son attaquant à 19 ans, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le monde qui sont capables de faire ça aujourd'hui, qui ont la lucidité de le faire. Et je pense que c'est lui le vrai crack à Lyon aujourd'hui.
Moi, je pense que c'est un vrai crack, mais je pense qu'il doit confirmer encore. Je pense que
n'allons
pas vite en besogne sur Malik Fofana. Je le trouve bon, mais en début de saison, c'est pas ce qu'on disait de lui. En début de saison, il était un peu en dessous.
Après, en fin de saison dernière, en deuxième partie de saison, en tout cas, c'est à chaque fois qu'il rentrait, il est là, il apporte. Je me souviens que du but de la victoire contre Monaco. À domicile, par exemple, il a toujours apporté quelque chose en sortie de banc, et c'est plus quand il était titulaire qu'on avait quelques réserves. Là, justement, son match face aux Rangers, c'est un match référence pour lui, pour son premier déplacement européen. Face à Nantes, il a été bon, surtout en première mi-temps. Lui aussi, je pense que ça va être un élément très important de la saison de l'OL, c'est sûr.
L'AS Monaco, qui ont pris le leadership, on peut dire, en Ligue 1, l'AS Monaco qui réalise un très beau début de saison, un qui n'est presque jamais arrivé, mais c'est déjà arrivé, mais presque jamais, en tout cas au 21e siècle. L'AS Monaco, solide. Voilà, que ça soit en Ligue des Champions, il crée la petite surprise. Là, on va y revenir face au Dynamo. Mais qu'est-ce que vous en pensez de l'AS Monaco, leader Alexandre?
Franchement, l'ASM, en fait, c'est une équipe qui est vraiment étrange. À chaque fois, on les oublie un peu dans notre esprit, mais ils sont souvent là. Et là, je trouve qu'ils font vraiment un début de saison qui est incroyable. Qui est incroyable parce que être leader en Ligue 1 et en plus de ça tenir la route en Ligue des Champions, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est surtout qu'en fait les performances qu'ils font sur le terrain, elles sont vraiment bonnes. Et mention spéciale à Ben Seguir que je trouve vraiment bon. Et dans le futur, ça pourrait être amené à être un très très bon joueur de Ligue 1 au moins, voire plus. Donc franchement, les Monégasques, c'est... Après, c'est toujours la même chose, c'est à voir s'ils vont tenir sur la durée, à jouer tous les 3-4 jours, parce que maintenant, il y a souvent des matchs. Après, ils ont de la chance qu'il n'y ait pas non plus énormément d'internationaux. Enfin, il y en a, mais pas non plus beaucoup, beaucoup d'internationaux à Monaco. Donc, à voir.
Ok. Et toi, Maxence?
Ouais, moi, je suis aussi impressionné par l'AS Monaco sur ce début de saison. Ils ont que des victoires, à part un match nul contre Lens, il me semble. Et c'est assez impressionnant. Ils sont devant le PSG, mais à un rythme qui est très 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 soutenu. Donc pour moi, ouais, c'est il peut y avoir match cette année avec, avec un PSG qui est un petit peu moins bien quand même. Il peut y avoir match si Monaco arrive à tenir la durée en fonction de ce qu'ils feront en Europe aussi. S'ils vont jusqu'au printemps européen, est-ce que ce ne sera pas un peu plus dur? Mais ouais, j'aime beaucoup le style de jeu déployé par l'équipe d'Adjuter.
Est-ce que tu penses qu'ils peuvent tenir la route jusqu'au bout, Samba, l'AS Monaco?
Franchement, avec les dernières performances du PSG, si, et en plus, le PSG sont orphelins, je trouve, d'un attaquant. Je pense que Luis Enrique a des comptes à rendre, hein, sur le fait qu'ils n'ont pas un œuf de qualité. Et surtout, sur les dernières performances de l'année passée, sur la fin de saison, et si Monaco maintient le rythme, ils peuvent aller jusqu'au bout.
Ok, merci Samba. Et toi, Léo?
Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, que Monaco fait un très bon début de saison, à la fois en championnat comme en Ligue des Champions. Après, le problème avec cette équipe, c'est qu'il y a beaucoup de si, parce qu'on les a régulièrement vus bien démarrer leur saison ces dernières années. Et malheureusement pour eux, s'effondrer au mois de février, mars, avril, quand ça compte vraiment au final, puisque c'est là que les places européennes ou les titres se jouent. Et pourtant, c'est un club, moi je trouve, qui a un très bon effectif déjà, qui travaille bien. Là, ils ont prolongé Golovin, qui est un maillon ultra important de cette équipe, même si on connaît sa fragilité physique. Ils ont un coach qui a de bonnes idées, des joueurs puissants, des joueurs intelligents. Je pense notamment à Wilfried Tsingou. Moi, je pense que c'est un des meilleurs défenseurs du championnat. Il y a du talent. Ils sont allés chercher Georges Ilenikena au Royal Antwerp cet été, qui est un attaquant très prometteur, que la Fédération française d'ailleurs aimerait bien shipper au Nigeria. Tu as des joueurs comme Magnès Akliouch, effectivement, ou Elias Benseguir. Il y a tout pour réussir à Monaco. Maintenant, le seul vrai ennemi de Monaco, c'est Monaco lui-même, quoi. Est-ce qu'ils arriveront à suivre leur saison comme ils l'ont commencé?
Et toi, Samba?
Ouais. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'ils ont certains joueurs qui sont blessés, dont Caio Henrique. Je trouve que c'est le meilleur latéral de la Ligue 1. Latéral droit.
Ah oui, directement.
Ouais, directement.
Latéral droit.
Pour moi, et franchement, au vu
de ses performances.
Ouais, ses performances.
Moi, honnêtement, je suis prêt à prendre les paris ici. Là, on est le 7 octobre. Moi, je suis prêt à prendre les paris qu'ils seront champions de France, Monaco. Je suis prêt à prendre les paris qu'ils seront champions de France parce qu'en fait, le PSG, je les vois mal. Je les vois. En fait, c'est bizarre, mais je les vois mal se réveiller. De toute façon, on va en parler tout à l'heure, mais ouais. Je les vois mal se réveiller au point d'asseoir sa domination entièrement. Et je vois plus Monaco sur les confrontations directes grappiller des points contre Paris, en fait. Et là, au rythme auquel ils sont, franchement, Monaco, je les vois bien champion de France, personnellement.
Je suis assez d'accord. Après, le seul petit problème de Monaco... Non, je suis assez d'accord, moi. Mais le seul petit problème de Monaco, ce qui me fait peur, c'est, étant donné qu'on n'en parle pas, que leur stade, il est vide, etc., il y a des petits matchs en hiver, des fois, où tu le regardes pas trop, tu sais pas trop, mais ils arrivent à perdre 3-2 contre Angers, ou à se faire piéger face à Sainté, ou quelque chose comme ça. Et on n'en parle pas, parce que c'est pas... PSG, OL, OM, donc ça ne fait pas la une. Mais j'ai l'impression qu'ils ont des trous d'air comme ça qui dépendent aussi du contexte et du fait qu'à Monaco, c'est assez tranquille.
Moi, honnêtement, moi, je prends le pari. Hein. Moi, je pense pas. Pour moi, Lyon a plus de chances de finir champion de France que l'AS Monaco. Et je suis vraiment sérieux. Vous pouvez rigoler.
T'as craqué, toi.
Non, c'est vraiment pour vous dire. Non, c'est vraiment pour vous dire à quel point je ne vois pas l'AS Monaco solide pour finir champion. Non, du tout. Ils ont une défense trop hasardeuse.
Non, il y a des blessés, comme j'ai dit. Il y a des blessés.
Oui. Et je pense qu'avec la Ligue des Champions, on a pu voir là face au Dynamo. Hein. C'était vraiment, ils reviennent au bout du bout, ils arrachent le match nul. Mais Dynamo qui ont pris 9 buts juste avant contre le Bayern. Mais tu dois gagner le match.
Après,
tu dois gagner le match.
C'est un match un peu spécial.
Après, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur, c'est pas facile.
C'est
une piscine, le terrain. Déjà, accrocher le nul, c'est pas si mal.
Je dis pas le contraire, mais la semaine d'avant, quand on en parlait autour de ce micro, il y en a beaucoup qui disaient non, ils vont gagner logiquement, ils vont s'imposer, ça va être facile. Et je disais que attention, parce qu'aller jouer au Dynamo, c'est pas facile. Et je disais que ça n'était pas facile. On va revenir maintenant sur le Paris Saint-Germain qui perd sa place de leader. Le Paris Saint-Germain, en une semaine, qui ont un peu tout perdu, entre guillemets, hein, avec un déluge londonien. T'as pu y assister en direct. Qu'est-ce que t'en as pensé de la prestation des Parisiens face à Arsenal?
Catastrophique. Il n'y a pas un seul mot, catastrophique. Franchement, bon, ils ont gardé le ballon. Ils avaient plus le ballon que les joueurs d'Arsenal. Et franchement, ils ne savaient pas quoi faire avec... Franchement, j'étais au stade, j'ai l'impression qu'ils ne savaient pas quoi faire avec le ballon. C'est que de tourner le ballon, ils n'avaient pas de solution.
C'est une possession stérile,
quoi. Exactement. Et à plusieurs reprises, on a vu qu'il manquait un attaquant. Parce que sur la composition...
Il manquait un attaquant ou un buteur? Moi,
parce il manquait un attaquant. Juste un attaquant.
Okay.
En fait,
il a voulu jouer en faux neuf, c'est vrai.
Exactement.
Qu'il a... Luis Enrique tente toujours des expériences dans des matchs où je ne comprends pas.
Non, il n'y a qu'à Barcelone, il a réussi à faire ça. Il n'y a qu'à Barcelone. Parce qu'il avait des joueurs extraordinaires. Mais au PSG, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas, tu as besoin de quelqu'un devant.
Après, il adore ça. On voit hier encore, il démarre avec... Ouais. Colomani, mais sans y croire, il le met
en 45 minutes.
Il a pas confiance en lui.
Il le sort pour remettre son faux neuf et Lee Kang-in, etc. etc.
Lee Kang-in, Arsenal, c'était sur la compo, c'était lui le faux neuf. Mais il est désolé. Saliba, Gabriel, ils étaient sur un fauteuil.
Attends, mais puisqu'on parle de ce match, moi, les gars, j'aimerais juste me faire l'avocat du diable de Luis Enrique. Ça manque de qualité en général. Les joueurs en général au Paris Saint-Germain, là, cette année, ils sont mauvais. Il faut dire les termes, ils sont mauvais. Donc, défensivement, on a Pacho, il vient d'arriver. On va pas me dire que c'est le meilleur défenseur du monde. Marquinhos, selon moi, je le répète depuis des années, mais il a un plafond de verre. Marquinhos, il a un plafond de verre. C'est un excellent défenseur de Ligue 1. C'est un bon défenseur d'Europe, mais ce sera jamais celui qui fera passer un cap à Paris. C'est trop tard, Marquinhos, malheureusement, il a un plafond de verre. Hakimi, c'est le seul qui a montré du caractère pendant le match, il faut le souligner. Et Nuno Mendes, pareil, il est en train de stagner. Je ne vais pas faire tout l'effectif, mais à partir du moment où tu sanctionnes Ousmane Dembélé, selon moi, à juste titre, hein, mais que tu le sanctionnes, et bah, forcé de constater que tu ne crées pas de danger, en fait. Que tu ne crées pas de danger. Et quand tu as Randal Kolo Muani qui est là, on ne sait même pas ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de l'immigré parisien. Mais j'ai fortement rigolé. Et il a raison, finalement. Il a raison, mais parce que Kolo Muani, il est là sans être là, malheureusement. J'ai vu un truc de l'équipe qui disait les joueurs sont terrorisés par Luis Enrique. Ils ont peur des remarques de Luis Enrique. Bon, je ne sais pas s'il faut prendre ça au sérieux, mais à partir du moment où tu as peur de ce que ton entraîneur dit, là, il faut vraiment se poser des questions. C'est-à-dire que ce ne sont pas des joueurs qui sont faits pour le haut niveau. C'est pour ça qu'en fait, moi, je mets un bémol sur Luis Enrique. Parce qu'il n'a pas eu non plus un mercato qui était excellent. Donc, il n'a vraiment pas une équipe qui peut faire sublimer non plus. Je suis désolé.
Ouh là là, là, on entend là, pas mal de choses. Je pense qu'on va y revenir très rapidement après une petite virgule. Parce que là, ça a le mérite de prendre une petite pause pour encaisser tout ça. À tout de suite. On revient tout de suite, hein. Bah, on a pu entendre un peu les déclarations de Alexandre. Pacho qui n'est pas bon, Pacho, je trouve qu'il est l'un des meilleurs Parisiens depuis le début de saison, hein. Pacho qui assure défensivement.
Non, je dis pas qu'il est mauvais, mais est-ce que c'est lui qui va... Est-ce que quand tu le vois, tu te dis, ok, lui, plus tard, ce sera top 5, top 6?
C'est possible, on sait pas.
Oui, bien sûr.
Pour l'instant,
sait pas,
il arrive, il s'adapte super bien. Moi, en tout cas, pour l'instant, il me convainc. Je le vois. Franchement,
et la profondeur de banc de Paris aussi, j'en ai pas parlé, mais elle est terrible.
Oui, il y a beaucoup de blessés aussi.
Franchement, t'es sévère avec Pacho.
Ouais. Non, parce que franchement, t'es sévère avec même Nuno Mendes qui marque le but. Nuno Mendes juste avant, et là encore hier qui remarque en trois matchs. Nuno Mendes, il est bon.
Il stagne.
Non, pour moi, il est bon. Franchement, il stagne.
C'est loin d'être le pire, mais il stagne.
Il a eu des blessures.
Oui, bien sûr.
Il a eu des blessures. Peut-être ça joue.
Vous êtes dur.
Mais Pacho, franchement, sévère. Parce que au niveau du match, il a mis de l'envie. Franchement, il avait une envie. Et après, bon.
Et puis, il a quelques... Je sais que j'en ai parlé.
Comment ouais.
Ça, c'est une catastrophe, par contre.
Alors là, on l'a oublié. Non, moi, je l'ai oublié. Mais franchement, au stade, franchement, même aux échauffements. J'ai vu les échauffements. Franchement,
parlons
un moment...
de l'ambiance.
L'ambiance?
Oui.
Non, après, l'ambiance, les Parisiens se sont fait respecter. Les supporters parisiens. Les supporters parisiens, ils ont chanté. Et franchement, honnêtement, les supporters, ils ne méritent pas. Les joueurs ne méritent pas, les supporters plutôt. Après, Arsenal, eux, c'est pas vraiment des supporters qui chantent. C'est pas comme Liverpool. Ouais. Après, c'est quand il marque ou vraiment quand il y a des contre-attaques, c'est là le stade il s'enflamme un peu. Et voilà. Mais sinon, au niveau de Donnarumma, l'échauffement, franchement, à un moment, il contrôlait son mauvais pied, c'est le pied gauche. Et franchement, c'était chaud.
Hein. Eh ben.
Franchement, c'était chaud. Franchement,
on dit que les gardiens doivent avoir un jeu au pied équivalent à un semi-pro, en tout cas dans l'idéal. Mais il y en a, c'est vraiment compliqué. Hein. Maxence, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de la prestation des Parisiens en Ligue des Champions ?
Mais le plus marquant, je trouve, c'est le fait que c'est Arsenal qui a dicté le match de A à Z. En fait, c'est que ils ont mis un pressing au départ, histoire de pousser. Une fois qu'il y a eu un, deux buts, voilà, ils ont reculé, ils ont laissé le ballon en se disant on sera jamais en danger de toute façon. C'est pour ça que c'est vrai que le PSG a eu la possession, c'est vrai que la deuxième mi-temps était un petit peu mieux, mais je pense que la deuxième mi-temps du PSG elle est un petit peu mieux grâce à Arsenal et par le fait qu'Arsenal soit dit les gars on mène 2-0, on a un gros match en PL ce week-end. On reste tranquille, on ne sera pas en danger, on met nos deux lignes de 4, ça va bien se passer. Et c'est ce qui s'est passé, ils n'ont pas été en danger plus que ça, c'était une possession stérile. Et là, pour le coup, la différence m'a marqué. Je m'attendais, on en avait parlé la semaine dernière, au fait qu'Arsenal soit au-dessus et impose un combat physique auquel le PSG n'avait pas l'habitude. On en avait discuté, mais je ne m'attendais pas à ce que la différence soit si flagrante en fait.
Aussi, est-ce que l'absence d'Ousmane Dembélé n'apporte pas beaucoup de choses? Ousmane Dembélé qui a été encore décisif hier. Léo, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce qui s'est passé du côté de Londres?
Déjà, moi, ce qui m'a marqué dans le match entre Arsenal et PSG, c'est que Paris n'a été bon dans aucune des deux surfaces. Et à partir de ce moment-là, tu ne peux pas espérer gagner, surtout contre une équipe comme Arsenal. Deuxièmement, je pense que l'absence de Dembélé, comme s'il avait... Peu importe ce que Luis Enrique fera, à mon avis, d'intervertir ses ailiers, de remplacer tel joueur par tel joueur, je pense que son effectif n'est tout simplement pas construit pour jouer le jeu que lui aimerait jouer. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as en ailier, tu as Dembélé et Barcola, qui sont des joueurs d'espace. Tu as Kolo Muani. Pourquoi est-ce qu'il s'épanouissait en Bundesliga? Parce qu'il avait des espaces. Aujourd'hui, tu demandes à un Kolo Muani d'être l'attaquant qui va participer au jeu alors qu'il n'en a pas les qualités. Donnarumma, on en a parlé, son jeu au pied est mauvais. Donc, dans une équipe qui aspire à avoir le jeu, à avoir la possession, tu peux pas avoir un gardien qui est mauvais au pied.
C'est pour ça que Pep Guardiola choisit très bien ses gardiens et change s'il y a un problème.
Tout à fait. Ou David Raya à Arsenal. Il a des défauts, mais il a un bon jeu au pied.
Il a un bon jeu au pied.
Les latéraux parisiens, pareil. Moi, je trouve que ce sont déjà de très bons contre-attaquants, moins bons défensivement. Mais je ne suis pas sûr que ce soit les profils adéquats pour jouer un jeu de possession. Au milieu, il te manque un mec qui va créer. João Neves, moi j'adore ce joueur, je trouve que c'est un joueur exceptionnel. Je pense que c'est un Warren Zaïre-Emery en puissance. Warren Zaïre-Emery, ce qui est appelé à devenir, le type de joueur qu'il est appelé à devenir. Mais je pense que tu n'as pas de... En fait, ton effectif, ce n'est même pas un problème de qualité, même si on peut en parler. Je pense que c'est vraiment un profil de jeu et le fait est que Luis Enrique, on le connaît, il a beaucoup d'ego et il acceptera jamais de se remettre en question, en tout cas par rapport à ce qu'il montre, par rapport à ce qu'il dit, pour faire en sorte de mettre toutes les qualités de ses joueurs au profit de l'effectif.
Même là, on peut revenir aussi sur la petite embrouille, si on peut dire, la petite altercation entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique, hein, qui fait qu'au final, Ousmane Dembélé n'est pas dans le groupe. Pour ce genre de match, est-ce qu'on ne devrait pas faire passer, je ne sais pas moi, le collectif un peu avant on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On a plusieurs versions des choses. Même le petit frère Ousmane Dembélé s'est exprimé aussi sur la version des choses. Qu'est-ce que t'en penses, Samba, ça te fait rire?
Mais est-ce que c'est vraiment son petit frère?
Franchement, je...
C'est ça le truc. Déjà, la première question, c'est ça.
Il se ressemble beaucoup. Ouais. Il se ressemble beaucoup quand même.
Mais après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Si vraiment il a manqué de respect à l'entraîneur, c'est normal qu'il le sanctionne. Après...
On a entendu pas mal de choses. Hein. Ouais. Kylian Mbappé, qui lui, à l'AS Monaco, avait fait un petit manque de respect en allant se douchant à la mi-temps, etc. Qui lui n'a pas été puni. Et là, Ousmane Dembélé, qui reprend juste un peu et qui est puni. C'est pas le même statut, oui, mais normalement, il n'y a aucun joueur qui était au-dessus du club.
Bien sûr.
Depuis, en tout cas, l'avenue de Luis Enrique, en tout cas, bien c'est sûr. Ce qu'il voulait faire comprendre. Et dans ce message-là, est-ce qu'il fait passer le bon message, Alexandre ?
Et moi, en fait, j'ai envie de te dire, en fait, s'il ne le fait pas contre Arsenal, faut mieux pas qu'il le fasse. S'il ne le fait pas là maintenant, ça ne sert à rien qu'il le fasse. Tu vois, il ne va pas le faire contre un vieux match contre Nice ou contre Lens ou contre je ne sais pas qui, contre Troyes. Tu vois, enfin, Troyes, ils sont même plus en Ligue 1 contre Auxerre. Tu vois.
Bon, après, pour moi,
il faut qu'il le fasse là maintenant pour qu'il envoie un message à tout le groupe. En gros, vous merdez, vous ne participez au match, vous ne participez pas au match important. Vous ne participez pas au match important. Moi, je veux que ça rentre dans un cadre. Et en fait, on a suffisamment défoncé Paris parce qu'il n'y avait pas de cadre que pour une fois qu'il y a un cadre, par pitié, même on peut penser ce qu'on veut de Luis Enrique, mais pour une fois qu'il y a un cadre et que l'entraîneur il a la pleine confiance de Nasser Al-Khelaifi, et de Luis Campos, pour une fois, laissons les choses se faire. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, comme tu as dit. Et Ousmane Dembélé, c'est pas non plus comme c'était Messi, quoi. Je veux dire, il fait des différences, mais comme je le disais l'année dernière, ça fait 7 ans qu'il tente. Tu vois
non, ça fait 7 ans qu'il tente, mais cette saison, en tout cas, il l'a bien entamé et c'est vraiment l'homme fort. Côté Paris Saint-Germain, entre lui et Barcola, du moins, ils s'échangent le flambeau. Et on a pu voir, même hier, il a été décisif. Et avec un Ousmane Dembélé, parce que ça manquait vraiment de vivacité face à Arsenal, il n'y a vraiment personne qui posait des difficultés réellement à cette défense, à part Kolo Muani vers la fin, un peu sur quelques duels aériens, où notamment on pense à un coup franc penalty, peut-être, qui aurait pu être exploité vers la fin. Il n'y a pas eu grand-chose. Donc c'est un peu se tirer une balle dans le pied un peu, non Maxence, qu'est-ce que t'en penses ?
Non, moi je suis pas d'accord, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. On devait du côté du PSG remettre l'institution au centre du jeu et arrêter les caprices de chacun. Donc si vraiment il a fauté, c'était le moment pour le sanctionner. On est en début de saison, le match contre Arsenal il était important sans être non plus capital, on l'avait dit la semaine dernière. C'est des poules de 8 matchs, donc ils en auront d'autres, des matchs à jouer, des matchs plus abordables. Rien ne dit qu'avec Dembélé, en plus, le résultat aurait été différent. Et c'était le moment. Si tu me dis, demain, c'est finale de Ligue des Champions, Dembélé, il arrive en retard à la causerie, est-ce qu'on le fait jouer ou pas ? J'ai tendance à te dire, oui, on le fait jouer. Là, on est au mois d'octobre, c'est le moment de remettre tout le monde d'équerre avant les gros matchs qui arriveront en février, en mars, un petit peu plus tard dans la saison.
Oui, après, on pense avec Luis Enrique aussi, hein, avec ses sorties un peu hasardeuses face aux journalistes. Hein. Oui, Ousmane Dembélé était là avec nous face à Dortmund. On a quand même perdu. Il était quand même là. Est-ce que c'est pas un mauvais message que ça soit. C'est pas un mauvais message qu'il envoie aux joueurs ou même à Ousmane Dembélé en termes de confiance ? Je sais pas.
Ouais, il a vraiment un orgueil, c'est l'entraîneur, je trouve. Après, sur le cas de Dembélé par rapport au match, franchement, je trouve que il y aurait eu des doutes du côté d'Arsenal. C'est un joueur qui, franchement, n'importe quelle défense aurait des doutes s'il voit Ousmane Dembélé en face.
C'est ce qu'il a dit, hein, Saliba. Il a dit, quand on a appris qu'Ousmane Dembélé n'était pas dans le groupe, on était un petit peu rassurés.
Ils ont dû rigoler. Pour moi, ils ont dû rigoler.
Personnellement, quand j'ai entendu la formation, j'étais à Londres. Ouais. J'ai entendu.
En plus, toi, tu voulais le voir jouer. J'étais avec deux
potes à moi. Franchement, je me suis dit, le match, il est plié. Ça y est, Arsenal, ils vont gagner.
Après, les gars, vu la maîtrise collective d'Arsenal, je pense pas que la présence de Dembélé aurait changé
clairement.
Il aurait peut-être dribblé 2-3 mecs sur le côté avant de sortir en 6 mètres. Mais sinon, je
Dembélé,
pense pas qu'il
aurait eu... Il peut tout faire. Ouais. Il peut créer tout le danger, mais c'est à la fin.
C'est ça.
C'est au moment de vérité.
Il aurait mis un peu plus le feu pour faire vibrer dans la tribune. Mais je suis pas sûr qu'au niveau...
Merci, Maxence, merci.
Je suis pas sûr qu'au niveau du résultat, ça aurait changé quelque chose.
Moi, je suis pas d'accord.
Dembélé qui fait tourner un gros match des champions, on n'a pas vu ça beaucoup.
On l'a vu contre le Barça.
Il faut savoir
aller-retour contre le Barça,
il a failli tomber sur la frappe.
Après, il faut savoir une chose. Arsenal, ils ont joué à 4 défenseurs centraux. Je sais pas si vous êtes au courant.
Oui.
Zinchenko blessé. Ben White blessé. Donc, franchement, je pense qu'il aurait créé un peu de danger.
S'il y avait eu Dembélé sur le côté de Calafiori, ça aurait peut-être un peu changé.
Après, Calafiori, très très bon défenseur. Franchement, très très bon défenseur. Mais mention spéciale à Trossard. Franchement, Trossard au stade, j'ai vu, rien à dire.
C'est fort. Ok, on va passer avec Brest. Brest qui sont tout simplement étincelants. Brest, on n'y croyait pas. Moi, j'y croyais. Hein. Moi, j'y croyais. Et je vous le disais. Je vous disais, attention, allez gratter un petit match nul, même à Salzbourg. Juste après, tu joues contre encore des petits clubs abordables. Tu peux essayer de gratter un petit match nul ou quoi. Ils sont déjà à 6 points. Deuxième de Ligue des Champions devant Manchester City, devant Inter, devant le Bayern Munich, devant le Paris Saint-Germain. Qui l'aurait cru ? Qui ? Léo, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
La saison dernière, ici même, on disait que Brest aurait beaucoup de difficultés cette saison. Je le pense encore. Je pense qu'en Ligue 1, ça va être très compliqué. Eux, ils jouent un championnat du maintien, très clairement, même s'ils arriveront, bien évidemment, à prendre quelques victoires ici et là. Après, en Ligue des Champions, moi, ils m'ont agréablement surpris. Autant je pouvais mettre la victoire contre Graz sur le compte de l'euphorie, sur le compte de tu joues à domicile, ton premier match de Ligue des Champions. Voilà, c'est une équipe que pas très... qui a très peu d'expérience européenne en face, c'est pas une équipe de renommée internationale. Autant contre Salzbourg, moi, ils m'ont plutôt surpris et agréablement, parce que déjà gagner 4-0, c'est jamais anodin à l'extérieur. Ouais. Salzbourg, qui est un habitué de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa, qui possède des jeunes joueurs vraiment très bons. Je pense notamment à Lucas Gournadoua, l'ancien Stéphanois, qui a un coach qui a des idées, qui est aussi un club qui est construit pour développer ses joueurs et de ce fait, qui a un effectif qui est aussi construit pour jouer en Europe parce que comme ça, ça permet de valoriser tes joueurs avant soit de les envoyer à Leipzig, soit de les faire monter dans d'autres grands clubs. Donc Brest, voilà, moi, c'est franchement, ils m'ont enthousiasmé sur leurs deux premières journées. Après, est-ce qu'ils réussiront à se qualifier au moins pour les barrages? Je ne sais pas, ça va être compliqué à mon avis. Parce que maintenant, il leur reste le gros du travail qui arrive. Mais pour autant, les supporters, eux, ils s'en contenteront. Et je pense que leur Ligue des Champions est déjà réussie, quoi qu'il arrive.
Samba.
Franchement, totalement surpris par Brest. J'y pensais, franchement, j'y croyais pas du tout. Et aussi, j'ai vu leur attaquant, il fait partie des meilleurs buteurs. Abdallah Sima.
Ouais.
Trois buts. Match, ouais. Il a un but derrière Harry Kane. Franchement.
C'est incroyable. Ouais. C'est vraiment incroyable, franchement. Ah, moi, je regardais le match. En plus, ils ont subi les assauts de Salzbourg en première mi-temps. Hein. Salzbourg qui ont attaqué à maintes et maintes reprises de fois. Ils ont dû mener même à la mi-temps. C'est vraiment un miracle que Salzbourg ne menait pas à la mi-temps. Et ils se sont fait punir juste après.
Tout ça avec des absents et un effectif qui n'a pas été tant régénéré que ça cet été en plus.
Oui, aussi. Avec des ventes aussi, des grosses ventes.
Et quand on sait ce que rapporte une victoire en Ligue des Champions,
on a pu voir. Ils ont
450 000 euros, il me semble. Ouais.
Ils ont gagné 10 fois leur salaire en 2 matchs. Non, mais clairement, ils ont gagné 10 fois le salaire de tout le club en 10 matchs. J'espère qu'ils auront des belles primes. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Alexandre, de Brest ?
Moi, honnêtement, Brest, surprenant. Je suis d'avis avec Léo et je suis content en vrai pour eux. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser ce qu'ils sont en train de faire. Même si, bon, c'est pas non plus le grand Salzbourg d'il y a 3-4 ans. Mais il ne faut quand même pas minimiser ce qu'ils font. Et en plus, d'autant plus qu'ils continuent de gagner en Ligue 1. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Et après, tu disais, Léo, que tu les vois mal se qualifier dans le top 8. Dans le top 8, c'est sûr que ça va être très compliqué, mais là, sous les yeux, tu vois, j'ai leur programme. Ils jouent contre le Bayer Leverkusen. Là, ça va être compliqué. Mais après, ils se déplacent au Sparta Prague où ils peuvent gratter des points. Et ils reçoivent le PSV. Et ils se déplacent au Shakhtar. Le Shakhtar, il ne joue plus en Ukraine, il ne joue plus à domicile. Il joue, je crois, c'est en Allemagne.
Pologne.
Ouais, moi, je pense que c'est la seule équipe contre laquelle ils peuvent gratter quelque chose.
Bah oui, mais tu vois,
ils leur manquent pas beaucoup de points. Ils ont déjà 6.
Ils reçoivent le Real Madrid, c'est ça ?
Ils reçoivent le Real.
Le Barça, ça va être très compliqué.
Ils se déplacent à Barcelone. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que là, sur ces points-là, tu peux gratter, vas-y, 5-6 points. Franchement, si tu grattes 6 points, c'est déjà très bien.
Ah, mais 6 points, tu y es là, avec 12 points, c'est dans les.
Moi, je pense qu'ils en gratteront minimum entre.
Bah, il en faut 3. Il leur manque plus que 3 pour finir.
3-4, t'étais dans les 24. Ouais.
Voilà. Moi, c'est entre 1 et 3, hein, pas plus sur les prochains matchs.
T'as 9 1 et 3.
Tu joues le Real au dernier match là ? Tu joues le Real au dernier match, ça se trouve, le Real sera déjà qualifié, sûr d'être en 8e. Bah oui. Et dans ce cas-là, tu pourras gratter un point.
Sur tous les prochains matchs. Non, attends, Sparta Prague, tu peux te permettre d'avoir.
Pour avoir regardé par exemple ce week-end le derby de Prague, justement. Je pense qu'il va falloir y aller. Il les joue à domicile ou à l'extérieur ?
Là-bas, ouais.
L'extérieur.
Et après, tu reçois le PSV et tu te déplaces au Shakhtar. Je veux dire, c'est les trois matchs
que
tu
peux passer des trucs. Hein.
Ouais, PSV c'est super.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire, c'est que. Non, faut y
on
croire,
a dit la même chose de Salzbourg.
Voilà, c'est ça que
le
je veux
PSV,
dire.
PSV, pour moi, est largement au-dessus de Salzbourg.
Ok, donc quand t'as vu Salzbourg-Brest, tu t'es dit que Brest allait gagner ?
Non, je pensais pas.
Alors que là, ils ont
mais je pensais pas non plus qu'ils allaient. Enfin, Je pense que là, ils ont joué les deux matchs les plus abordables de leur poule. Parce que le Shakhtar, ça reste quand même une référence.
Et ils ont pris un 6 sur 6.
Ils ont pris un 6 sur 6.
Donc ça,
là où
ça
ils devaient être.
Salzbourg, ils sont autant une référence que Shakhtar.
Sauf que Salzbourg, l'année dernière, par exemple, dans le championnat local, n'a pas gagné. Ils n'ont pas fini champion. C'est Graz qui a fini champion. Salzbourg, ça fait, comme tu l'as dit, ça fait 2-3 ans qu'ils connaissent un petit peu de coups de moins bien. Pour moi, c'est un. On va dire que c'est un exploit parce que c'est Brest, mais qu'un club français qui participe à la Ligue des Champions aille gagner là-bas, je pense pas que ça le soit. Après, là, on fait fi de ça puisque ça a été fait, c'est Brest. Mais je pense qu'ils ont pris. S'ils prennent 7 ou 8 points, déjà, ce sera très bien. Je pense.
Arrête d'être pessimiste. De toute façon, on
en
verra
reparlera,
bien.
Bien sûr. Mais.
Quoi qu'il arrive, ils se sont donné la chance d'y croire jusqu'au bout.
Et ça, c'est que du bonus.
C'était pas gagné. Ils pouvaient être KO au bout de la 5e, 6e journée en visant le 0 point ou essayer de gratter un point, etc. Et là, ils sont pas tous dans cette optique-là. Ils vont pouvoir y croire jusqu'au dernier match.
Parce qu'il faut pas oublier qu'ils jouent la Ligue 1 en parallèle et qu'ils vont avoir un calendrier très fourni avec la Ligue des Champions. Et qu'ils vont jouer, je crois qu'ils vont avoir un enchaînement de matchs au mois de novembre ou décembre avec des chocs Lille, PSG. Tu vois,
je pense que la Ligue 1, il n'y a rien à gratter pour eux cette année. Ils vont se contenter de se maintenir, jouer le milieu de tableau et kiffer en Europe.
Bah, ils l'ont dit.
Pour moi, le maintien, il va être très difficile.
Ah, non, tu penses l'entraîneur a évoqué que la Ligue 1 passe avant la Ligue des Champions.
Oui, mais pour moi, leur maintien, il va quand même. Enfin, je ne le vois pas difficile. Il y a des équipes qui me paraissent beaucoup plus faibles. Que ce soit Montpellier, Auxerre, Saint-Etienne, ça me paraît loin derrière Brest quand même. Qui a des références collectives. Le Havre, encore, on les a vus ce week-end. Qui a des références collectives, qui a quand même. Des mecs qui connaissent la Ligue 1, qui ont l'habitude de ce championnat-là, des Ajorc, des Pereira Lage. Ces mecs-là, en Ligue 1, ça reste d'un niveau moyen plus. Et pour moi, ça va se cantonner autour de la 10e, 12e place, mais assez tranquillement, une saison à la Toulouse. Quoi.
Brest, qui sont 11e, on le rappelle, en Ligue 1, à 9 points égalité avec Nice, qui sont 9e. Du coup, je pense qu'ils sont déjà bien placés en Ligue 1. Moi, je pense que ça peut le faire aussi. En Ligue des Champions, on a eu, on a parlé de la défaite du Paris Saint-Germain face à Arsenal. On va aussi évoquer, je pense qu'on y est, les gars. La très belle victoire de Lille, hein. c'est même pas une victoire, c'est je sais même pas comment appeler ça, hein. Franchement c'est une masterclass, hein. Non, c'était Zegrova, Chevalier, le défenseur, j'ai plus son nom en tête, qui a fait un match extraordinaire, franchement c'était
Thiago Santos.
Ouais, Thiago Santos.
Et surtout le petit au milieu de terrain, Boadi. Alors lui.
Qui ont fait une masterclass et qui ont battu l'équipe tenant du titre. Le fameux Real Madrid, l'ogre de la Ligue des Champions, hein, que tout le monde connaît et que tout le monde redoute. Qu'est-ce que vous en pensez ? On en parlait la semaine dernière et moi je disais bien, attention, ça peut faire une Toulouse-Liverpool.
J'y croyais pas une seconde. Honnêtement, j'y croyais pas une seconde. De pouvoir les accrocher éventuellement, aller sur un coup de moins bien côté Real, etc. Mais de là à gagner, à battre le Real, c'est un match historique pour le LOSC, tout simplement. Et ils ont été parfaits. Il y a eu un petit Real et eux ont été immenses, énormes. Et donc ça donne ce résultat-là. Mais moi j'ai envie de mettre en avant. Bon, c'est assez classique, mais c'est Chevalier. C'est incroyable. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un gardien comme ça en Ligue 1 pour moi. Or éventuellement PSG, Navas qu'on a vu, mais formé en France, etc. C'est très 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 fort ce qu'il fait. Je comprends pas pourquoi il est pas appelé en équipe de France. C'est un scandale, mais là il s'est révélé aux yeux de l'Europe. Là, c'est même plus le fait de le voir en Ligue 1, de le voir bon le week-end, nous de notre côté dans notre petit championnat. Là, c'est au niveau européen, il a montré qu'il était totalement à hauteur de ce genre de match. Et pour moi, c'est une référence suffisante.
On a vu pas mal d'hashtags Chevalier à la place de Donnarumma. Hein. On a vu pas mal d'hashtags Donnarumma out. On veut Chevalier au Paris Saint-Germain. En tout cas, Chevalier qui est convoitisé par des gros clubs. En tout cas, pour l'instant, on voit qu'il y a des gros clubs.
J'ai vu City, Newcastle, Bayern.
Qui commence à s'installer. Chevalier, je pense que son avenir sera radieux. Hein. Je pense qu'il n'y a pas 36 000 chemins. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, Samba ? T'as dû te régaler.
Ouais, franchement, Chevalier, comme il a évoqué Maxence, performance XXL. Mais franchement, le petit Boadi, il m'a choqué. Hein. Il est sans froid, 17 ans, genre de. Vas-y, fêter son anniversaire. L'entraîneur, il le titularise. Franchement.
Rien à dire.
Ouais.
Voilà, et masterclass à 17 ans. Je pense que lui aussi va être convoitisé. En fait, c'est ça. Hein. Les joueurs savent que quand ils jouent contre des grosses écuries, le match va être regardé, va être vu. Et à ce moment-là, il ne faut pas se louper parce que soit tu es la risée, soit tu es un joueur à en devenir. En tout cas, là, on a pu voir des joueurs qui sont sortis grâce à ce match-là, notamment.
Ouais, franchement, ils n'en ont pas fait trop, en fait. Même à la fin, franchement, ils étaient relâchés. Ils ont mis des petits. Kamavinga, je vois, il se prend des petits ponts. Modric aussi.
C'était compliqué. Hein. C'était un petit Real Madrid. Kamavinga qui n'était pas dans un soir, mais qui a fait un très gros match ce week-end et qui vient avec les Bleus. En tout cas, on espère qu'il sera en forme. Léo,
moi, je n'ai pas vu le match de Lille contre le Real Madrid. J'ai opté pour Aston Villa Bayern Munich. Pour autant, j'ai regardé un long résumé et tout ça. Et sur Chevalier, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est pour moi l'avenir de l'équipe de France. Énorme joueur. Mais je ne pense pas que le match face au Real Madrid, ce soit le match, si tu devais le présenter à une grande équipe européenne, qu'il faille montrer. Dans le match, il fait ce qu'un gardien de bon niveau, bien concentré, réussit. Alors, il fait une ou deux parades exceptionnelles, ça, on est d'accord. Mais je pense qu'il a été très sérieux, surtout avant même d'être exceptionnel. Je l'ai vu faire des matchs autrement plus fort. Alors, sans dire qu'il a été mauvais, attention, loin de là. J'ai lu beaucoup de choses sur son match et je pense que ça a été un tout petit peu...
C'est parce que c'est le Real en face.
Et c'est bien de valoriser ses joueurs. Ouais, évidemment. Mais si tu regardes à froid, c'est
Il a fait des meilleurs matchs dans sa vie, mais c'était plus confidentiel. Voilà, c'était au Stadium contre Toulouse ou à la Baie des Champs.
Tout à fait.
Mais là, le fait que ce soit contre le Real, face à Vinicius, Mbappé, etc., ça rajoute.
Parce que pour moi, un gardien qui fasse des magnifiques arrêts face à Auxerre ou le Real Madrid, en soi, c'est la même chose.
Bien sûr.
C'est différent d'un joueur de champ pour moi. De toute façon, le poste de gardien.
Attends, redis ce que tu as dit.
Si un gardien, je dis n'importe quoi, Ludovic Ajork, il sort une frappe exceptionnelle
en pleine
lucarne et qu'il la sort.
Moi, je suis pas d'accord.
Comme tu as dit, gardien, c'est un poste qui est totalement différent, mais tu as une pression de malade mentale quand tu es gardien.
Ah, mais ça oui, mais un arrêt.
Mais quand tu joues au Real Madrid.
Il y est pour la victoire.
Ah ouais, mais quand tu joues contre le Real Madrid, tu as encore plus de pression que quand tu joues contre Stadium à Toulouse.
Ouais, mais il faut savoir que les joueurs, ils ont de la pression, évidemment, mais qu'eux, ils sont tellement concentrés qu'au final, je vais pas dire qu'ils passent outre, parce que ce serait faux de le dire. Mais la pression que nous, on perçoit pour les joueurs, eux, ils ne la perçoivent pas de la même manière. Tu vois ce que je veux dire ?
Pas du tout.
Dans le sens où nous, on pense qu'ils ont énormément de pression. Ils en ont énormément, mais peut-être moins que ce que nous, on pense qu'ils ont réellement. Tu vois.
Peut-être, mais je pense que pour lui, c'était un rendez-vous quand
mais
même.
Mais c'est un rendez-vous. Et
en plus, il est aux portes de l'équipe de France et tout. Si clairement, il se trouvait là, ça aurait été bon pour Deschamps pendant 2 ans de dire « Ah non, il n'est pas prêt, on l'a vu en Ligue des Champions, en Europe. »
C'est ça. Surtout vous connaissant Deschamps. Et son
là, c'était un vrai test. Non, et moi, au-delà de ses parades, excuse-moi, c'est vraiment son charisme. C'est ça qui me... Ce qui dégage. Et ça, c'est un truc de grand gardien. Sa personnalité.
On l'a vu haranguer même à la fin. Ils ne sont pas encore tombés, mais il fait un arrêt et il harangue les
trous. On a l'impression qu'il fait 2m10 et qu'il a une envergure de 3 mètres. Il est monstrueux parce qu'il a un charisme, il a la tête droite et il a une tête de tueur. On sent qu'il est là, quoi. Il est en place. T'as un gardien comme ça derrière toi, tu peux être serein, tu peux voyager.
Exactement.
Alexandre ?
Ouais, bah là, du coup, on va parler de Lille, parce qu'on va peut-être pas parler du Real, parce qu'on pourrait parler des deux équipes, mais si on s'attarde sur Lille, franchement, une performance de malade, les Lillois, franchement, il n'y a rien à dire. Jonathan David, on l'a pas cité, mais il fait un match de fou. Et moi, il y a quelqu'un que j'ai kiffé de fou, c'est Zegrova. Zegrova, ce mec, je le trouve trop fort. Il est vraiment trop, trop fort. Et en fait, vraiment, c'est. Le commentateur, bon, c'est un peu cliché, mais le commentateur de Canal+, il a dit oui, Lille joue en blanc ce soir. Le Real joue en rouge. Voilà, il a dit le Real joue en rouge et finalement c'est vrai parce que franchement le match qu'ils ont fait les Lillois, c'est quand même extraordinaire. Ils ont réussi à résister au Real Madrid qui fait un très mauvais début de saison, faut le dire, mais pas d'un point de vue comptable, mais dans le jeu. Mais surtout à résister à tous les vices que le Real ont pu instaurer. Carvajal, ils auraient pu les sortir du match. Carvajal, il fait plusieurs choses qui peuvent faire sortir des joueurs du match. Rudiger, pareil. Vinicius, pareil. Et puis, c'est pour ça que je veux dire, la performance de Lille, elle est quand même incroyable. Et comme Brest, leur victoire, ça leur permet de pourquoi pas rêver plus loin. On pourrait parler de l'entrée d'Mbappé, de tout ça. Mais
ça va être long. Merci Alexandre, merci à vous. On va enchaîner avec la Ligue Europa. On va se faire une petite virgule avant d'enchaîner avec la Ligue Europa, avec Lyon face aux Rangers. On a pu voir aussi Nice face à la Lazio. C'était un peu moins bien. On arrive tout de suite. Comme on l'a dit, hein, Lyon qui cartonne en ce moment et qui ont cartonné Rangers, à la surprise un peu générale en tout cas, Lyon 4-1 en patron, qui ont maîtrisé le match de bout en bout. Qu'est-ce que t'en penses, Alexandre ?
Ouais, franchement, bah, les Lyonnais, on en parlait tout à l'heure, et je trouve que leur victoire face aux Rangers, elle est déjà méritée, et en plus, elle est prometteuse pour la suite, et c'est là qu'on a vu quand même que quand les individualités sont en forme, elles peuvent faire très 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 mal. Donc à l'instar de Cherki, comme on en parlait tout à l'heure, de Malik Fofana et de Lacazette qui met un but de ouf en plus, Lacazette. Et Lucas Perry qui reste solide, je voulais en parler de lui parce que remplacer Anthony Lopez, c'est vraiment pas simple. En plus, Anthony Lopez, il est toujours là dans le vestiaire, ça doit être compliqué, etc. Et d'avoir Lucas Perry, je trouve que c'est quand même bien pour les Lyonnais. Et voilà, rien d'autre à dire, à part que franchement, c'est une victoire méritée. Ils sont premier à égalité de points avec la Lazio au classement. Donc franchement, c'est super pour Lyon.
Samba, qu'est-ce que t'en as pensé de la performance de Lyon?
Après la contre-performance sur Marseille, ils sont sur des bonnes performances. Ils ont fait preuve de caractère là-bas en Écosse. Et surtout, franchement, Lacazette, très beau but. Voilà.
Rien de chose à redire. Voilà, ça y est. Lyon, Léo.
C'est une victoire importante pour l'OL après avoir déjà battu l'Olympiakos qui avait remporté la dernière C4. Après, les Rangers sont peut-être plus l'équipe qu'ils étaient il y a quelques années encore. Ils se sont fait manger 3-0 par le Celtic il y a quelques semaines. Ils ont des problèmes aussi en interne. Mais aller gagner en Écosse, c'est toujours un bon résultat, qui plus est avec la manière. Alexandre parlait de Lucas Perry, je pense que c'est peut-être la trouvaille de ce début de saison. Mis à part sa bourde, profitant à l'OM justement il y a quelques semaines, il n'y a pas un match où il ne te sort pas minimum un arrêt qui te permet de rester ou de pas couler. Je pense à Strasbourg, je pense même à Nantes ce week-end.
Il y a encore,
qui a pas été... Nantes a été très mauvais. Mais il te sort un arrêt, deux arrêts.
Sur Simon à 0-0, et puis une autre deuxième.
La première action, il me semble. Très bon. La connexion Cherki-Fofana qui a très bien fonctionné jeudi. Lacazette qui ouvre enfin son compteur but, qui fait un début de saison qui est vraiment difficile.
On peut le dire aussi. Mmh.
Ouais, mauvais, ouais. Hier, il a été
catastrophique.
Très mauvais. La défense, moi, je trouve qu'elle est encore friable. D'ailleurs, on le sent. Même si tu n'encaisses pas beaucoup de buts au final, mais tu sens que tu es sur un fil à chaque fois qu'il y a une incursion adverse. Je pense que le retour de Niakate va faire beaucoup de bien. Parce que c'est un joueur qu'on a beaucoup critiqué dès le début de saison, après son match face à Rennes. Je pense que c'est un bon joueur qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui va s'imposer en tant que leader, je pense, dans la défense de l'OL. Et l'avantage de Lyon, c'est qu'ils ont un calendrier en Ligue Europa avec des équipes qui ont toutes plus ou moins le même niveau, ce qui va les obliger à rester concernés jusqu'à la dernière journée, à moins d'être déjà qualifiés dans les 8 à une ou deux journées de la fin. Et c'est ce dont ce club a besoin, parce que c'est un club qui a quand même l'ADN européen. Sur ces dernières années, on les a moins vus en Europe, mais à chaque fois qu'ils sont en Europe, ils performent. Ou au moins, ils représentent bien la France. Si la France aujourd'hui peut compter beaucoup de clubs en Coupe d'Europe, c'est en partie grâce à Lyon. C'est un club à l'ADN européen et qui va continuer, je pense, à perpétrer cet héritage.
On espère. Et Maxence, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de Lyon, en Écosse ?
Vous avez à peu près tout dit, mais je suis assez d'accord. Pour moi, Lyon doit viser les 8 premières places dans cette Ligue Europa. C'est leur niveau, c'est leur place. Après, on verra ce que donne le tirage sur 8e, sur quart, etc. Mais ils doivent finir dans les 8 premiers. Je disais la semaine dernière que Sage, il allait devoir trancher, notamment par rapport au profil offensif, parce qu'il y en avait trop. Les Zaha, les Orban, les Lacazette, Mikotadze, Cherki, Fofana, Nouama. Et là, j'ai l'impression qu'il l'a un peu fait avec ces deux derniers matchs. On a vu que Fofana, Cherki, Lacazette, ça bougeait pas, c'était ce qu'il voulait, même si contre les Rangers, c'était à 3 devant, et puis là, c'était dans un 4-2-3-1 avec Benrahma contre Nantes.
Qui a été mais, très bon d'ailleurs, ouais. Benrahma hier.
Mais on a l'impression qu'il a trouvé ses 4-5 hommes qui animeront son attaque, on va dire les 4 d'hier, plus éventuellement un Mikotadze ou un Nwama. Et qu'il s'embarrasse plus.
Pour toi, Jif Torban et...
Bah, il les a mis en tribune hier, à mon avis. Il s'embarrasse plus trop avec eux, peut-être sur les matchs un peu bidons. Mais Zaha, il a montré, le peu de fois où on a fait appel à lui, il a montré qu'il n'était pas concerné du tout par le collectif. C'était à Toulouse, il me semble. Et là, avec le match que Fofana fait aux Rangers, parce que Fofana, il était hyper impressionnant, beaucoup, enfin, plus qu'hier, où il paraissait un peu émoussé. Mais contre les Rangers, c'est lui qui m'a sauté aux yeux. Et Cherki aussi, qui est quand même en bonne forme. Lacazette qui sera inamovible, je pense, même si Mikotadze va falloir qu'il se relance un moment. Mais voilà, je pense qu'il a trouvé un peu sa formule et il a trouvé au moins les hommes pour l'animer. Et c'est une très bonne chose pour la suite de la saison de Lyon, parce qu'il faut se baser sur des hommes forts pour avoir un cadre solide.
Merci. Très rapidement, hein, on a pu voir Nice qui sont tout simplement pris une gifle à la Lazio, hein, 4-1 sur un terrain aussi. C'était un peu de l'aqua, je sais même pas comment on appelle ça, mais c'était aqua boulevard, mais c'était assez difficile. Samba, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de Nice?
Franchement, j'ai pas regardé le match, hein. Ouais. Honnêtement, j'ai pas regardé le match.
Bah, t'as pas raté grand chose, hein. 4-1 de la Lazio, une belle fessée, vite fait, bien
après,
fait.
La Lazio, c'est quand même un grand d'Europe,
ouais.
Donc ils ont un effectif aussi costaud par rapport à Nice. Nous, Nice, c'est plus des jeunes joueurs en devenir. Et après, ils ont le coach qui, entre guillemets, Frank Hayes, a l'habitude de prendre des jeunes joueurs et les développer. Donc là, c'est plus de la construction, on va dire, du côté de l'OGC Nice.
Ok, merci Samba. Léo ?
Ouais, c'est une lourde défaite. Ça les ramène un petit peu sur terre après leur premier match. Après, je pense que Nice, c'est une équipe qui a les moyens largement de se qualifier, au moins pour les barrages. D'ailleurs, je pense pour les barrages seulement. Il y a des très bons joueurs. Il y a un coach qui sait faire jouer ses équipes. Il y a un calendrier plutôt abordable, il me semble. Donc je pense que Nice, ils ont pris une petite piqûre de rappel face à une bonne équipe qui n'est plus un géant italien depuis quelques années, mais c'est une équipe qui a quand même un pédigré, qui a des bons joueurs, qui a une expérience aussi européenne. À eux de se retourner directement, et je pense que j'ai aucun doute qu'ils vont réussir à le faire même.
Merci. Alexandre ?
Ouais, franchement, je pense que c'était plus de l'ordre de l'accident, ce match pour Nice. Comme a dit Léo, c'est vrai que la Lazio, c'est quand même une équipe qui a des références en Europe, contrairement à Nice. Et puis, se déplacer là-bas, c'est toujours un peu compliqué. Mais sinon, je pense que c'est plutôt un accident. En plus, on l'a vu, ils sont bien repris contre Paris, justement, ce week-end. Il y a un coach, Frank Hayes, où il sait où aller. Des joueurs quand même, il y a des jeunes joueurs, c'est vrai, mais aussi des joueurs quand même avec de l'expérience, comme Ndombele qui a fait un énorme match d'ailleurs hier. Donc je pense que c'est plutôt un accident et à voir pour la suite, mais moi je suis pas trop inquiet en vrai.
Et toi, Maxence?
Je suis pas du tout inquiet, mais on se doutait que la Lazio à Rome, ça allait être compliqué, ça arrivait tôt dans la saison, mais. Comme on l'a dit, Francaise, il est en train de mener sa petite barque tranquillement. Ils ont fait un très bon match encore hier. Moi, hier, je craignais vraiment parce que je me suis dit, en ayant joué jeudi soir, enchaîné dimanche avec le PSG qui avait 2 jours de plus de récup et tout, je craignais un peu qu'ils prennent un deuxième éclat d'affilée, mais finalement pas du tout. Et je pense que ce qu'on voit en Ligue 1, on va aussi le voir en Europa League. Après, la Lazio, pour moi, c'est une des meilleures équipes sur le tableau Europa League global. Ils sont dans les 5-6 avec Lyon, par exemple. Donc, c'est pas choquant que Nice perde là-bas, et c'est pas révélateur du niveau des autres équipes qui vont affronter sur la suite de la compétition.
Merci, Maxence. Très rapidement, la Ligue Europa, la Lazio qui domine premier à égalité de points avec Lyon, différence de but, et Lyon deuxième, égalité avec Tottenham aussi. Et on voit le FC, le Rosenberg, il me semble, c'est ça, qui sont aussi quatrième et cinquième Anderlecht, avec 6 points notamment aussi. Dans le bas de tableau, Nice qui sont 30e, hein, c'est assez difficile pour Nice pour l'instant. En tout cas, il faut qu'ils se relancent avec 2 buts marqués et 5 encaissés. pas grand-chose à dire en Ligue Europa. On attend que ça se décante encore un peu plus. On va se faire une petite virgule avant de revenir sur la Ligue Conférence très rapidement. La Ligue Conférence, bah Chelsea qui mène encore les devants. Hein. Chelsea premier, non, même pas Chelsea qui ne sont même pas premiers. En tout cas, qui font partie des premiers. Attendez, il me semble que là, j'ai... Ouais, Chelsea qui ont 6 points avec une petite victoire. Et voilà, pour l'instant, Cercle Bruges qui sont premiers avec une différence de but de 4 points. Pas de club français en Ligue Conférence. Voilà, pas grand-chose à dire. On va tout de suite enchaîner avec le rassemblement des Bleus. Kylian Mbappé qui demande à ne pas être sélectionné avec les Bleus. Comprenez-vous son choix ? Kylian Mbappé qui a joué 70 minutes, même si sa prestation laisse à désirer... Il a quand même joué dernièrement avec le Real Madrid. Comprenez-vous son choix, lui qui est capitaine de l'équipe de France, qui décide de ne pas venir ou du moins de se mettre d'accord avec Didier Deschamps pour ne pas venir à ce rassemblement Samba ?
Franchement, incompréhensible. Franchement, je pense que c'est irrespectueux. Mbappé, en plus, capitaine, qui est censé être le capitaine de l'équipe de France. Franchement, là, pour ma part... Là, il faut vraiment qu'il y ait des changements, de gros changements, même au niveau du capitaine.
Ah, tu penses qu'on peut le destituer ?
Moi, pour moi, franchement, déjà, même avant cet épisode, ouais. On a vu vraiment qui était le leader du vestiaire.
C'est qui ?
Mike Maignan.
Mike Maignan, ouais.
Franchement, il a fait preuve de caractère. Il y a eu des petites, soi-disant, il y a eu des petites guéguerres, en gros. Oui. Et même des petites frictions, ouais. Exactement, c'est dans le terme adéquat, des petites frictions dans le vestiaire. Et on a vu vraiment qui était le leader du vestiaire. Et franchement, l'entraîneur Deschamps, je n'ai pas compris.
Son choix de capitana.
Même la fédération, je ne comprends pas. Normalement, quand un joueur quand le club évoque des blessures concernant un joueur, l'équipe nationale a le droit de entre guillemets le convoquer et voir vraiment si il est en capacité de jouer avec la sélection nationale. Et je comprends pas pourquoi l'équipe de France ça a pas été fait. Par contre, avec j'ai oublié son nom, le défenseur du Real Madrid, le brésilien
Militao,
ça a été fait. Le Brésil ont effectué cette procédure.
Voilà. Léo, toi, qu'est-ce que t'en as pensé?
Moi, je trouve que c'est un peu honteux quand même qu'il n'y a pas que Kylian Mbappé qui soit fautif, que le Real ou la Fédération, mais que les trois le sont. Quand aujourd'hui Didier Deschamps explique en conférence de presse que Kylian Mbappé il veut froisser personne, qui répond à ses intérêts personnels, moi je trouve ça fou. C'est le capitaine de l'équipe de France, le joueur qui est censé être le plus populaire, qui est en train de s'attirer la colère des
Français,
entre guillemets,
foudre,
des Français.
Ouais. T'as vu, quand tu regardes entrée, à Lille,
son entrée à Lille, c'est le seul joueur qui est sifflé. Ouais. Alors que tu joues une équipe adverse où il y a Vinicius, et comme tout le monde disait tout à l'heure, Rudiger, Carvajal, qui sont des joueurs qui pourraient être sifflés parce qu'ils ont du vice, parce que si, parce que ça. Non, c'est Kylian Mbappé qui est sifflé. Je pense que, en fait, Didier Deschamps, quand il dit que Mbappé il défend ses intérêts, c'est... Je pense qu'il définit parfaitement qui est Kylian Mbappé. On le sait, c'est quelqu'un qui veut avoir la main mise sur sa carrière, qui prendra des décisions pour ce que, qui le font que lui est le entre guillemets personnage principal. Si ça doit causer du tort à son équipe, son club, c'est pas grave. Si ça doit causer du tort à l'équipe de France, c'est pas grave. Sauf que l'équipe de France, il ne faut pas oublier qu'elle est censée appartenir à aucun joueur. Il n'y a personne qui est plus fort que l'institution. Et aujourd'hui, Kylian Mbappé, pour moi, il ne sera pas déchu de son capitana parce que Didier Deschamps, on sait que c'est un entraîneur qui est très fort avec les faibles, mais beaucoup plus faible avec les forts. Kylian Mbappé, il va revenir en novembre à la prochaine trêve. On va avoir le droit à 5-6 posts sur les réseaux sociaux, regarder qui est de retour ou quand il sort de la voiture, et personne ne dira rien, il sera titularisé, voilà. Après,
capitaine,
Exactement. Et après, on peut se poser peut-être des questions. Pourquoi il n'est pas là alors que, comme par hasard, l'équipe de France affronte l'équipe d'Israël? Est-ce qu'il y a des enjeux politiques derrière? Moi, ça ne m'étonnerait même pas. Parce qu'on sait que le foot est aussi quelque chose de politique. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il a 25 ans. Il se veut être l'un des plus grands joueurs du monde, potentiel ballon d'or. Maintenant, c'est à lui de montrer l'exemple, quoi.
Et puis, c'est un grand garçon. Il n'est pas non plus victime de la Fédé, de son club. Il est aujourd'hui Kylian Mbappé. S'il dit demain, j'ai envie d'aller en équipe de France, il y va et le Real aura rien à dire. Donc, c'est qu'il le veut bien aussi d'en être là. Je comprends tout à fait le truc de il n'a pas vraiment eu d'été, il veut se repréparer et tout. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui l'empêche d'aller en équipe de France, de dire écoute, par contre, je ne vais pas jouer parce que là, je suis en phase de reprise, je me fais un programme. Mais au moins, au niveau de l'image, il est là, il est avec l'équipe. Il est dans le vestiaire, il est avec tout le monde. Ça fait le mec clairement qui s'en fout, qu'on a rien à faire des matchs.
En sachant, j'apporte un peu d'eau à tout le moulin, mais en sachant que Griezmann prend sa retraite, du coup il y a pas de vice-capitaine déjà désigné. Donc quand tu fais ça, c'est les laisser un peu en plan. Là, les deux les ont laissés un peu en plan.
Et tu parles de Griezmann. Et Griezmann, c'est un mec, peu importe. Ce qu'il a connu en club dans sa carrière, il a toujours mis l'équipe de France au-dessus. Que quand il était en galère au Barça, quand il était au top à l'Atlético, il a jamais zappé un rassemblement, jamais une fausse blessure, jamais un truc. Et même là, son truc, c'est limite de la provocation, parce qu'il le fait même pas bien. Si jamais il joue pas à Lille et il fait pas son match piteux contre Villarreal là, et qu'il dit je suis blessé et je reviens dans 15 jours, ça passe. Mais là, c'est le fait qu'il soit titulaire le dimanche soir et que derrière, il ne vienne pas le lundi à Clairefontaine. C'est au-delà de tout. Et la symbolique pour les capitaines de l'équipe de France, elle est horrible. Mais rien ne changera parce que Deschamps lui a tout donné, la Fédé lui a tout donné. Et ça sera comme ça pendant 10 ans.
Hein. Macron aussi.
Macron aussi lui a tout donné.
Sarkozy non, aussi, rigole, François rigole. Hollande. On rigole à moitié. Rigole. Vas-y, franchement, Alexandre.
Franchement, pour moi, c'est très très grave ce qui s'est passé, la vérité. Parce que au moins, ça prouve... j'espère vraiment que le grand public... Et encore plus, tous ceux qui lui lèchent les bottes vont voir que vraiment, c'est quelqu'un qui est extrêmement égocentrique et qui ne pense qu'à lui et qui ne pense pas du tout aux intérêts du collectif, comme a dit Léo. Et en plus, parce que là, il y a des Parisiens autour de la table, des supporters parisiens, mais Patrice Evra, il a dit un truc qui est juste. Si jamais Mbappé, il avait joué à Paris, mais il serait venu. Là, c'est juste parce qu'il joue au Real Madrid, que le Real Madrid, c'est l'institution, c'est Florentino Pérez, etc. Mais s'il joue à Paris... il serait venu et il n'aurait même pas bronché. Donc ça, déjà, c'est un élément à prendre en compte. En plus de ça, il y a Philippe Diallo, le président de la FFF, qui vient parler tout à l'heure, qui dit « Oui, je ne comprends pas pourquoi Mbappé n'est pas venu. Il faut faire passer les intérêts de la sélection nationale. » Ben, mon gars,
c'est toi. Ouais,
mais il a eu un double discours, alors.
Ouais,
mais
moi, j'ai vu, il a eu un double discours.
C'est pas ce qu'il disait.
En fait, il vient de révéler quelque chose d'important. En fait, il n'y a pas de communication.
Il n'y a aucune communication.
Entre l'entraîneur, la Fédé.
Et parce que Deschamps, il a les pleins pouvoirs. Et ça, pour moi, ça, cette faillite, c'est celle de Mbappé. J'espère que les gens vont s'en rendre compte. Et c'est aussi, surtout, celle de Didier Deschamps. Parce que Didier Deschamps, pendant, parce que là, ça fait 14 ans qu'il est là, on n'en peut plus. Mmh. Ça fait 14 ans, il nous rabâche. Ouais, le collectif, il est plus important, etc. Il a écarté Benzema. Il a écarté Pogba pour ses trucs de... Même avant qu'il soit suspendu, il avait écarté Pogba. Il a écarté Valbuena, bon voilà. Il a écarté Ribéry. Il a écarté Nasri.
La Cazette.
Il a écarté la Cazette.
Même récemment, il a écarté Giroud.
Il a écarté Giroud. Mais
à l'Euro.
Mais sous prétexte qu'il faut faire passer le collectif avant tout, il remercie à moitié Griezmann. Comme tu as dit, il a écarté Giroud alors que c'est deux artisans de son succès. Et là, il a écarté Koscielny. Et là, il donne les pleins pouvoirs à Mbappé. Alors que, de toute façon, je l'avais dit ici même avant, il a fait une erreur fondamentale, c'est de ne pas donner le brassard à Griezmann. Et il l'a tué. Il l'a plombé, il l'a perdu.
Il a plombé toute l'équipe de France, souvenez-vous, parce que depuis là, Griezmann est moins bon.
Exactement. Et souvenez-vous qui fait sortir à la finale de la Coupe du Monde, alors que tout le monde est éclaté. Hein. Tout le monde est mauvais, qu'on se souvienne tous. Vous venez pas me dire Mbappé, il a fait Mbappé au
il
bout
a
de
fait
60...
12 minutes de haut niveau.
Merci. Mbappé. Il a fait 12 minutes de haut niveau
parce qu'il est très haut niveau.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pendant 105 minutes, il est pendant 90 minutes, il est inexistant. Il fait sortir Griezmann à la 70e. Là, pendant les derniers rassemblements, qui sort à chaque fois, c'est Griezmann. Qui a été sanctionné sur le banc contre l'Italie, c'est Griezmann.
Oui, c'est à l'Euro.
Non, parce qu'il n'était pas bon, non, mais il était pas bon.
À l'Euro, c'était là, il y a vraiment la fracture.
Alors que les deux sont nuls. Mbappé et Griezmann sont nuls.
Et Mbappé est encore plus nul, je pense.
Et là, en fait, il a fait un choix, tout simplement.
Là, en fait, Mbappé, il est en train de continuer, je trouve, son travail de destruction.
Exactement.
Il est au PSG. Après, au PSG, il y a eu des conflits. Donc, manque de préparation. Nasser, le Khalifi, l'a suspendu. Donc, voilà. Et là, en équipe de France.
Moi, je pense que Deschamps, il est victime un peu du monstre qu'il a créé parce que à la fin de 2022, quand il le nomme capitaine, il le fait pour garder son poste. Parce qu'il le fait, à l'époque, Mbappé, il est tellement puissant. C'est Mbappé qui fait sauter Le Graët, hein, quasiment, de la Fédé. Et Deschamps, à mon avis, se dit, si Mbappé, je ne l'ai pas dans la poche et qu'il mène une fronde contre moi, contre truc, je vais sauter au premier.
C'est très grave. Il a fait un choix.
Un choix égoïste.
Il a fait un choix, mais il a fait le mauvais. Ouais. Il a fait le mauvais choix parce qu'au final, là, quand tu vois l'équipe de France... Mais là, quand on voit la liste de l'équipe de France...
Et surtout, excuse-moi de te couper, et surtout, je pense que Mbappé n'aurait même pas bronché si Griezmann aurait été capitaine et lui vice-capitaine.
Ah,
non.
Si, je sais pas. Déjà, qui veut prendre les coups francs, qui veut prendre les pénaltys...
Il faut pas oublier au PSG, il y a l'histoire du capitaine.
Oui, mais attendez, là, il arrive en équipe de France.
Des pénaltys.
Le revote des pénaltys.
C'est n'importe quoi. Non, franchement. Et le mec, il détruit tout, quoi. Il détruit tout.
C'est là qu'on voit, qu'on commence à voir.
Là, il arrive au Real, Vinicius, c'est lui qui lui donne les pénaltys. Derrière, il lui donne, lui donne la balle.
Attends 6 mois ou un an. Au PSG, au début, pendant un an, il a été très calme.
Real est une institution.
Ça, on peut en parler beaucoup.
On va en reparler.
Ça, on peut en parler beaucoup. Toi qui kiffes le Real.
Non, je ne kiffe aucun club. Tous les clubs français.
Non, peu importe. Toi qui suis le Real de près.
Je suis toutes les équipes de près.
Non, en vrai, sérieusement, toi qui suis le Real de près. Mais imagine, t'es Rodrigo. Je suis Rodrigo, je l'ai de travers.
Mais après, peut-être que ça va arriver
Vinicius,
à Rodrigo aussi.
Je l'ai aussi de travers.
Peut-être que ça va arriver aussi à Rodrigo.
Il a son statut.
Il sait pas se placer, Mbappé. T'as vu comment il joue mal sur
Il dézone.
Vous avez vu contre Lille, l'image où ils sont deux sur le côté.
Ouais, exactement. Bellingham qui pète un câble.
Ce que je veux dire, en fait, moi, je vous dis, le vrai patron du Real Madrid, c'est Bellingham. Et là, quand il est revenu aussi, le dernier penalty, c'est lui qui devait le tirer. Après, le penalty a été annulé, mais c'est Bellingham qui avait le ballon en main. Et moi, je pense que le vrai patron, vraiment, et même Bellingham, quand il leur dit finissez les actions, on l'entend. Et Bellingham, c'est vraiment quelqu'un qui a de la personnalité. Oui, mais il dit nous, on court derrière, on fait le sale charbon. Okay, vous devant, faites le taf.
Okay, je peux être d'accord avec toi. C'est peut-être Bellingham, le patron, etc. Mais au final, en fait, Mbappé, il a tellement le soutien de Florentino. Ancelotti, on l'a jamais vu comme ça avec un joueur, Ancelotti.
Clairement.
Ce qui fait qu'en fait, il va perdre.
Qu'est-ce qu'il fait
Moi, tu vois.
On l'a jamais vu comme ça. Et ce qui fait qu'il va perdre son groupe aussi, Ancelotti, s'il continue. Parce que Bellingham, il va se réveiller, il va dire écoute, moi, l'année dernière, j'ai fait une saison de malade. Et là, t'as un gars qui arrive, qui est somme toute vraiment mauvais. Et genre, lui, il a les clés du camion. Rodrigo, il est sur le banc. Donc là, on s'éloigne.
Non, Rodrigo joue titulaire.
Non, mais oui,
parce qu'il l'a pas mis sur le banc.
Contre Lille, il l'a mis sur le banc.
Parce qu'il est blessé. Parce que Mbappé... Mais c'est pour ça même que le Real perd le match. Moi, je vous le dis, Rodrigo n'est pas sur le terrain. Et c'est un problème. Et on le voit directement. Et là, Rodrigo, ses dernières performances, même dans les gros matchs de Ligue des Champions, Rodrigo, c'est le meilleur. Mais il est blessé. Mais c'est pour ça qu'il n'a pas joué. Tu penses sérieusement qu'il aurait mis Hendrick titulaire?
Moi, je pense que sur un gros match.
Est-ce que tu penses sérieusement qu'il aurait mis Hendrick titulaire et laissé Rodrigo sur le banc?
Mais quand bien même.
Il était blessé.
Tu vois bien que sur le terrain,
il était blessé, Rodrigo. Il était blessé, Rodrigo. C'est pour ça qu'il n'a pas joué une minute.
Rodrigo, il joue parce que Mbappé veut pas jouer à droite.
Aussi.
Non, moi, je pense que même s'il veut jouer à droite,
je suis d'accord avec toi.
Là, ils sont mignons.
Surtout que faut savoir une chose, c'est que Rodrigo, il y est pour beaucoup sur les dernières Ligues des Champions.
Mais oui,
il
est ultra important.
C'est
pour ça.
Il a changé.
Et vous pensez que Carlo Ancelotti ne le sait pas? Est-ce que vous pensez que Carlo Ancelotti ne le sait pas? Il le sait très bien, c'est pour ça qu'il lui fait confiance et qu'il le laisse encore sur le terrain. Et il prouve encore.
Il a Mbappé, il passe à autre chose.
Non, parce qu'en fait, quand t'as Mbappé, en fait, t'es obligé de laisser Rodrigo.
Mais on pensait tous, oui, Mbappé, s'il fait le malin, il va aller sur le banc, Real, vous allez voir. Mais en fait, on a l'impression que non, en fait.
Mais pas du tout, il ira jamais sur le banc.
Moi, je pense que.
Non, ça, c'est un problème.
Mais par contre, ils sont tous mignons, là, en octobre, à s'échanger les pénalties. Tiens, toi, prends le
faire des photos Insta.
Je le prendrai contre l'Espagnol. On en reparle en février-mars. Demi-finale contre le Bayern, il y aura Peno à la 88e. Là, si on passe mettre des coups de tête pour le prendre.
Mais oui. C'est que je pense qu'à force de jouer, Mbappé, il risque de perdre. Parce que déjà, au Real, tu vois qu'il y a une scission claire pour moi avec Rodrigo. Quand tu vois que sur Instagram, effectivement, il poste des photos, tu vois Bellingham, Mbappé, Vinicius. Où est Rodrigo? On peut se le demander. Mais tu vois, on parlait tout à l'heure du rôle du capitana. Est-ce qu'il aurait mené une fronde contre Deschamps ou non? Moi, je pense qu'on ne le sait pas, ça ne sort pas forcément. Et peut-être que je me trompe, hein. Mais je pense que Mbappé, il va finir par même saouler ses propres coéquipiers.
Mais, et c'est déjà le cas. Hein.
En équipe de France.
L'intervention de Maignan, c'était ça déjà un petit peu.
L'intervention de Maignan, mais. Ouais, c'est Maignan, comme tu as dit, ouais. Comme a dit Samba, c'est Maignan le vrai capitaine.
Dans le sens où aujourd'hui, s'il menait une fronde contre X ou Y à la fédération ou contre Deschamps, je ne suis pas sûr qu'il soit si suivi que ça, tu vois. Et si aujourd'hui il devait y avoir un nouveau vote sur le capitana, je suis pas sûr qu'il l'emporte.
Je pense qu'il était plus puissant il y a deux ans qu'il l'est aujourd'hui.
Mais tu sais pourquoi? C'est très simple.
Et d'ailleurs, ça se ressent sur le terrain.
C'est performance.
C'est performance.
Là maintenant, ça se ressent logiquement. Bon, on va enchaîner le programme fil à tout à l'heure. Et du coup, on va se faire une petite virgule avant de revenir sur le cas Paul Pogba. Hein, Paul Pogba qui bientôt de retour sur le terrain. Ça va faire plaisir à nous, supporters du football et supporters français. Paul Pogba qui voit sa suspension réduite à 18 mois. Quelles sont ses chances de se relancer avec l'équipe de France et avec un top club notamment? Très rapidement, s'il vous plaît, parce qu'il reste très peu de temps. Je vais vous demander d'être court, vraiment très court et clair. Samba, c'est parti.
Le retour de Paul Pogba, franchement, là, je ne sais pas vraiment quoi y penser, mais je pense, au vu des qualités intrinsèques du joueur, qu'il peut se relancer. Après, pour moi, tout ce qui lui est arrivé, je pense qu'il y a eu un tournant dans sa carrière. Au moment où il devait soit aller au Real, soit retourner à Manchester. Et je pense que le fait qu'il ait retourné à Manchester United, ça a été le mauvais choix de carrière.
Et après qu'il retourne encore à la Juve. En fait, lui, c'est que des retours, oui,
voilà.
Quoi.
Voilà.
Lui, c'est... Il part, il revient.
Il n'a pas été épargné par les blessures aussi.
Ouais, exactement. Oui, c'est vrai. Après, les histoires extra-sportives.
Est-ce que tu penses qu'il va revenir à son haut niveau?
Moi, personnellement...
Et qu'il va avoir un top club.
Je pense qu'il va revenir, au niveau. Après, top club, je ne sais pas. Mais franchement, j'aimerais bien le voir en France.
Ah, s'il y a un coup à jouer, c'est pour les clubs français.
C'est à l'OM.
Mmh. Ouais, à l'OM, franchement.
C'est ce qui se dit, du moins, en tout cas, à l'OM.
Moi,
Moi, j'ai l'impression que l'OM, c'est un peu le club. Parce que, excusez-moi, mais je pense que s'il veut avoir une chance de rejouer avec l'équipe de France, parce que moi, je pense que ça n'est pas gagné du tout, s'il veut avoir une chance de jouer avec l'équipe de France, pour moi, il doit jouer en France, limite. Hein.
Il ne faut pas jouer à Lyon, en tout cas.
En France, tu as dit, en France, en équipe de France.
Oui.
Franchement, je te l'avouerai, il saute Tchouaméni 10 000 fois.
Sur une jambe, il est meilleur que tous nos
honnêtement,
milieux de la liste.
Je cours contre son jeu.
Mais ça fait combien de temps vous ne l'avez pas vu jouer au foot?
Mais
il est à un top niveau.
Même à 45 ans, il sera meilleur.
Il a 31 ans.
Regarde le retour de Kanté.
Honnêtement, Eladj, on a vu à Manchester. Il a fait des saisons à Manchester. Il était moyen. Mais à chaque fois qu'il revenait en équipe de France, il avait le niveau.
C'est un genre de mec de compète. Tu le mets sur un an, je suis pas sûr qu'il sera au niveau. Et c'est pour ça que je pense qu'aucun top club se penchera sur lui. Parce que déjà, avant blessure, il saoulait un peu tout le monde. Avant suspension, il saoulait un peu tout le monde avec ses blessures, ses trucs. On sait qu'il n'est pas régulier sur une saison. Donc, un club moyen, type OM à l'échelle européenne, hein, mais type OM pourrait lui convenir avec moins d'attentes, on va dire, moins de compétition, etc. Par contre, au niveau équipe de France, on sait que c'est un mec déjà dans un groupe qui est hyper important. Dans le groupe de l'équipe de France, c'était lui le leader charismatique. Donc, on parlait de capitana. Lui, il a les caractéristiques pour. Et en plus, sur le terrain, il ne peut pas faire de mal dans un groupe de 23 sur un mois de compétition pour moi.
D'accord. Merci pour Samba et Maxence. Alexandre, très rapidement.
Franchement, Pogba, c'est un joueur que je kiffe et je pense qu'on kiffe tous. Ce qui nous a vraiment fait rêver. Mais j'ai bien peur que ça va être compliqué pour lui, son retour. Parce que déjà, il est à la Juve. On sait que la Juve, ils veulent s'en séparer.
Ils vont s'en séparer, ouais.
Moi, j'ai peur que ça finisse en Arabie Saoudite. Parce qu'en fait, mis à part un club français, je vois mal un club européen, enfin, ce sera un club européen de seconde zone. Mais revenir à un très, très haut niveau, Pogba, j'ai un peu peur. En plus, il commence à faire de la musique et tout. Là,
c'est vrai, moi, j'y crois très fort. Il est beaucoup distrait, hein, Paul Pogba. Le brouteur, le wawateur, c'est un boucanteur.
Il mange la vie, comme on peut.
En tout cas, ce qu'on a pu entendre dans la dernière musique. Léo.
Moi, à titre personnel, évidemment, j'aimerais revoir Pogba au haut niveau. Je pense que si aujourd'hui il était à 100% de ses capacités, je dis bien à 100%, il n'y a pas un milieu qui s'assoit à sa table en Europe, donc dans le monde, dans son registre en tout cas, Parce que c'est vrai que dire oui, c'est le meilleur milieu, mais bon, il y a des sentinelles, il y a des créateurs, il y a des 8, il y a des box-to-box, il y a des
oui,
trucs.
Oui, s'il te plaît, Léo.
Voilà. Mais dans son registre, il n'y a pas à 100%, il n'y a pas un milieu aujourd'hui qui s'assoit à sa table. Après, je ne pense pas que malheureusement. Déjà, il ne repartira pas tout de suite dans un top ouais, club ouais, européen. Ouais. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Moi, je le verrais bien retourner en Angleterre, mais dans un club peut-être. Un truc genre Newcastle, un truc comme ça, tu vois. Alors après, parce que faut pas oublier qu'il a un salaire derrière qui suit. Il y a pas beaucoup de clubs qui vont être capables de lui. On parle de l'OM, mais alors.
Est-ce qu'il va être prêt à sacrifier, à faire des sacrifices financiers?
On parle d'Adrien Rabiot qui a fait des sacrifices pour venir à l'OM, mais Pogba, ça va être d'autres ouais, sacrifices financiers. Ouais, que...
En sachant que là, il est payé soit le minimum de tarifs qui doivent être payés, c'est 2000 et quelques euros depuis plusieurs mois. Du coup, je pense que pour un footballeur, en tout cas avec son train de vie, je pense que ça va être compliqué. Il faudra vite renflouer les caisses. On va enchaîner avec le petit quiz. On va faire une petite virgule juste avant le petit quiz de la fin. C'est parti. Les téléphones sur la table, les mains en l'air. C'est parti pour le petit quiz. Lancement. On va partir. Première question. Quelle est l'équipe qui a encaissé le moins de buts depuis le début de la saison dans les 5 grands championnats?
Lens?
Non.
Arsenal?
Le Barça?
Non, c'est pas le Barça, je l'ai eu, purée. J'ai vu la stat.
Le Bayern, non?
Non.
Plus. Non. Ah, c'est chaud, là.
Leipzig?
Non.
Atletico?
Non.
C'est pas Liverpool?
Non plus.
On n'est pas bon, là.
C'est une équipe italienne?
Je sais pas.
Ah, la Juve.
Qui a dit la Juve?
Moi.
Maxence.
Maxence. Ils ont pris un but. C'est exactement ça. Ils ont pris un but, non, face à Cagliari. Là, dernièrement, oui, ils ont pris un but. En Italie.
Ah oui, en championnat, parce qu'à Leipzig, ils ont fait 3-2.
C'est bien ce que j'ai dit. Oui, en championnat, c'est bien ce que j'ai dit. Du coup, voilà, on enchaîne avec la deuxième question. Quel est le leader des 5 grands championnats à avoir marqué le plus de buts? Avoir concédé le plus de buts, pardon.
Concédé le plus de buts?
Oui. Le leader des 5 grands championnats à avoir concédé le plus de buts.
C'est Naples?
Non.
Monaco?
Non plus.
Leipzig?
Non plus.
Ils sont pas leaders.
Ah, c'est
ils
Bayern.
Ils sont pas leaders, c'est Leipzig.
Bayern.
Ah, Bayern est repassé devant.
Non plus.
C'est
Liverpool?
C'est pas le Barça.
C'est le Barça.
Oh. Ah ouais?
Ouais. Ah ouais. Avec 9 buts.
Ah ouais.
Oui. On enchaîne. Quelles sont les deux équipes qui ont loupé 2 pénaltys durant le même match lors de la dernière journée de championnat dans les 5 grands championnats?
Girone et la Fiorentina. Ouais,
non, là c'est Milan.
Non, c'est Milan, c'est ça, exactement.
Ah, là,
c'est
ouais.
Girone
ah, oui,
et la
Fiorentina.
C'est
Réa qui a fait.
Voilà, c'est exactement. Ouais. C'est Girone et Bilbao. C'était Bilbao face à Girone.
Non, c'était Bilbao et AC Milan.
C'était Bilbao et De Réa 2.
C'est ça. Quelle est l'équipe à avoir marqué le plus de buts dans les 5 grands championnats?
C'est Liverpool, ça.
Barça.
Oui, c'est
Barça.
Barça.
Ah oui.
C'est le Barcelone avec 28 buts. Et dernière petite question. Attention, elle va être pas facile, celle-là. 19 points après 7 matchs pour l'AS Monaco. Meilleur démarrage depuis quelle année?
Pour eux ou
pour
toutes les équipes?
Pour eux.
De leur histoire.
96.
Non.
L'année?
Non, l'année où ils ont fait mieux.
Bah, ils n'ont jamais fait mieux, moi, je pense.
Toi, tu penses qu'ils n'ont jamais fait mieux?
98, quand ils finissent champions avec Arsène Wenger, Chris...
98, après ça.
Comment il s'appelle? 84, 85, non?
Non, jamais. C'est 99, alors, ouais.
Vous avez tous perdu et c'était 1961.
Oh, j'aurais jamais eu une
meilleure. Voilà, 1961.
Même eux, ils ne le savaient pas.
Merci les amis, en tout cas, pour cette belle émission. Merci à nos chers auditeurs et auditrices. Et on va se dire à très bientôt, à la semaine prochaine, pour une émission spéciale. Merci à Jason, à la Réa. Et merci à tous. À très bientôt.